Et si on partait sur Europe 1, tous les jours, entre 16h et 18h, un grand voyage. Je vous emmène vers deux destinations, une en France, une au bout du monde, juste pour le plaisir de rêver. C'est parti.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Et tout à l'heure à 17h, je vous emmènerai dans une marmite bouillonnante, dans un chaudron volcanique, la plus grande île volcanique du monde, avec des paysages spectaculaires de lave, de volcans, de glace, de geysers. C'est une merveille. Nous irons donc en Islande. Et juste auparavant, là tout de suite, une autre merveille qui est elle aussi un caractère assez puissant, bien trempé. La ville de Marseille, avec le vieux port, les calanques, la bonne mer, mais surtout les Marseillais. Nous allons redécouvrir Marseille ensemble jusqu'à 17h. Et question caractère, je suis bien entouré également. Il y a par exemple Nathalie Elal, bonjour.
Bonjour à tous.
Nathalie Elal qui est auteure, grande voyageuse, notre ami chroniqueur gastronomique.
Bonjour.
Bonjour.
Ça vous fait rire.
Olivier,
j'ai pas Pousse. Commencé à parler, j'ai rien dit.
C'est votre visage qui m'inspire la joie. Mais
écoutez, je suis radieux, je suis ravi, je suis content d'être là.
Mais c'est vrai.
Je vous dise.
Votre seule présence nous apaise.
Ah bah écoutez,
fait du bien.
Il exulte, Olivier Pousse.
Jean-Bernard Carrier, guide Lonely Planet.
Prêt à décoller, Philippe.
Prêt à décoller. Regardez, les cigales sont déjà là. Regardez comme on est bien. Alors Marseille, bon, je pense que beaucoup de gens ça vous sait.
Ouais, on va quand même rappeler que c'est dans le département des Bouches-du-Rhône,
ouais.
Numéro 13.
Au
sud, à 800 km au sud de Paris, si on veut localiser par rapport à
parce
Paris.
Le monde est centré à
ouais,
Paris.
On est obligé un petit peu, parce que le départ des TGV se fait souvent depuis là, donc
ouais.
On est un petit peu obligé de parler de ça. Il faut quand même dire que Marseille est un cul-de-sac. Peut-être que ça explique aussi des choses.
Ça va faire plaisir aux Marseillais.
C'est un cul-de-sac et c'est entouré de massifs calcaires. Donc c'est vraiment... un monde un petit peu à part. Marseille.
Comment ça, un cul-de-sac ? Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de routes pour s'en échapper. Quand on est à Marseille, on est vraiment, c'est comme un terminus et c'est cerné par des amphithéâtres montagneux
ouais.
Qui sont à peu près entre 4 et 600 mètres. Un univers déjà très minéral comme ville.
D'accord.
Et peut-être que ça explique quelque chose du tempérament marseillais.
Ah, pas faux, pas faux.
Ah, ouais.
Nathalie,
oui.
Il y a beaucoup de monde très connu qui vient de Marseille.
Oui, d'ailleurs, ça a été un petit peu un choix cornélien, hein, tellement il y en a. Alors, j'ai retenu pour vous aujourd'hui, par exemple, Joseph Pujol. Alors, Joseph Pujol, c'était un artiste dans son genre, hein, puisque c'était le pétomane. Il est né à Marseille le 1er juin 1850.
Le premier Marseillais célèbre que Nathalie Elal cite,
le pétomane.
Est un pétomane.
Mais parce que c'est tellement improbable, c'est vrai, aujourd'hui un pétomane, il n'y en a plus.
Non,
mais
ah bon, ça c'est pas sûr.
Comment qui se produit sur scène ?
Ah non,
je crois pas.
Et comment on peut interpréter ce choix de votre part ?
Bon bah écoutez comme vous voulez, hein. Prenez-le par tous les bouts si j'ose dire. Alors je peux y aller.
Je vous en prie.
Oh non.
Alors ce Joseph Pujol, il avait une telle maîtrise de ses muscles qu'il pouvait lâcher des gaz à volonté et avec une variété incroyable de sons. Par exemple le tir au canon, le bruit de tempête, les bruits d'animaux de la ferme.
Ah oui.
C'était l'artiste le mieux payé du Moulin Rouge à la fin du 19e siècle. Et d'ailleurs, petit détail amusant, il y avait une infirmière qui était postée en permanence dans la salle du Moulin Rouge parce que les femmes étouffaient dans leur corset à force de rire. Malheureusement, il n'y a pas d'enregistrement sonore connu de ses prestations.
Ah, c'est dommage.
On le regrette vraiment. Oui. Sinon, il y a aussi...
Ah, que c'est bon, la bouillabaisse. Ah, mon Dieu, que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon, la bouillabaisse. Ah, mon Dieu, que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin. Préparer le pastis et sans cesse. Raconter des blagues avec les mains.
Oui, évidemment incontournable quand on évoque Marseille. Fernandel, né le 8 mai 1903, évidemment là-bas à Marseille. Acteur, humoriste, chanteur, réalisateur également, issu du music hall. Il a été durant plusieurs décennies l'une des plus grandes stars du cinéma français, le champion du box-office. Il a attiré, écoutez-moi bien, plus de 200 millions de spectateurs dans les salles. Et puis un autre personnage incontournable, l'écrivain, dramaturge et réalisateur de cinéma, Marcel Pagnol également. Alors lui, il n'est pas né à Marseille, mais à Aubagne. Enfin, on lui pardonne, c'est juste à côté. Et on lui doit de nombreux chefs-d'œuvre, dont Marius, qui l'a rendu célèbre. Je vous en parle d'ailleurs tout à l'heure.
Ouais.
Un peu plus proche de nous, le danseur et chorégraphe Maurice Béjart, qui est né à Marseille en janvier 1927. Il a parcouru le monde entier avec sa compagnie qui s'appelait le Ballet du XXe siècle. Et puis, deux célébrissimes animateurs, Jean-Pierre Foucault et Patrice Lafont.
Ouais. C'est tout ?
Oui, c'est tout.
Bien, non, voilà.
Il y en avait beaucoup d'autres. Mais...
Ouais, il y en a plein. Merci beaucoup, Nathalie Hall. Olivier Pouls, alors
On va dresser la table tout à l'heure. Et puis je sens que vous allez être ravis. Parce que nous allons parler de bouillabaisse, évidemment, incontournable. On en parlait avec Fernandel il y a un instant, mais on en percera tous les secrets. Et puis, on racontera l'histoire de cette soupe de poisson.
Ouais.
Et puis, moi, quand je passe à Marseille...
Je me balade pas mal autour de la planète. Et souvent, c'est un plat international, la bouillabaisse. Et dans beaucoup d'endroits, on vous propose dans le menu bouillabaisse. Mais alors, écrit E2ZE... Alors, c'est toujours infâme, mais j'en prends tout le temps en espérant un jour retrouver la vraie bouillabaisse.
Mais vous verrez qu'il y a un truc pour la trouver, la vraie. Bouillabaisse, oui, elle est protégée. Et donc, il y a aujourd'hui une charte, et je vous en parlerai tout à l'heure.
D'accord.
Puis sinon, quand je pense à Marseille, moi, c'est tout de suite l'image d'une énorme sardine aussi qui me vient.
Qui bloque le vieux port.
Qui bloquerait le vieux port et qu'on pourrait manger. Alors, pourquoi pas, là, comme il fait chaud, sur quelques braises au barbecue.
Oui, très bien. Ben, on vous retrouve tout à l'heure pour évoquer tout ça. Vous l'avez compris, c'est le début d'un grand voyage sur Europe 1, à Marseille, puis en Islande. À tout de suite.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Tous les après-midi sur Europe 1, 2 heures de voyage, tout l'été. Après 17h, je vous emmènerai donc en Islande, au pays des aurores boréales, au pays des volcans, au pays de Reykjavik, la capitale la plus septentrionale du monde. C'est le pays de tous les extrêmes. Et là, tout de suite, nous partons à Marseille. Et pour nous guider, l'acteur et humoriste Patrick Bosseau, que vous connaissez pour ses rôles dans « Mais qui a tué Pamela Rose », pour son rôle dans « Marseille » de Cadmerade, « Le gendre de ma vie » et puis son spectacle « Sans accent ». Et puis surtout, c'est un enfant du pays, un vrai. Bonjour Patrick Bosseau.
Bonjour.
Il est un peu plus de 16 heures, on vous a pas réveillé, c'est, ouais. C'est plus l'heure de la sieste là.
Même si c'est un cliché, c'est vrai que la fête, elle est prise, c'est nécessaire. Quoi. Mais j'espère qu'on ne la fait pas qu'à Marseille.
Hein. Non, en Corse aussi, on sait la faire.
Voilà, j'espère un peu plus haut aussi. Mais commencer la présentation d'une ville par la personne la plus célèbre, par un pétoman, ça vous situe Marseille sur la carte de France.
Vous je vous remercie, Patrick.
Tout de suite, pourquoi faisons-nous un dossier sur la ville de Marseille ? Parce que c'est la ville... où le pétoman a eu le plus grand succès. Et voilà quoi.
Donc, moi, j'aurais aimé rencontrer cet homme-là.
Ben moi, alors, je vais vous faire une confidence, parce que vous avez dit qu'il n'existe pas d'enregistrement. Moi, j'ai un live. au Moulin Rouge. Et je peux vous dire que ça vaut le coup. Franchement, quand on n'a pas le moral, le soir, pour s'endormir, c'est magnifique. Je vous le prêterai. Je vous ferai l'enregistrement.
Avec plaisir.
Nous, on s'est beaucoup interrogé sur la technique pour réussir à produire un show de longue durée. Ça ne doit pas être facile à organiser.
Mais non, c'est pour ça qu'il était bien payé et qu'il était au Moulin Rouge, vous voyez.
Alors, vous êtes né, Patrick Bosseau, à Marseille. Vous y vivez, vous y travaillez beaucoup. Donc, vraiment, il y a un truc marseillais dans votre sang qui vous attache. Comment ça passe ? Ça part de l'enfance ? Qu'est-ce qui se passe ?
Mais franchement, moi, vous voyez, je vous dis la vérité, moi, je ne me suis jamais rendu compte que j'étais marseillais ou quoi que ce soit, quoi. Vous voyez, je suis né dans une ville... C'est quand après, je suis allé habiter à Paris pour suivre des cours de théâtre et tout ça, quoi, que là, vraiment, je me suis rendu compte de mon accent, de ma manière d'être, de vivre, qui pouvait être différente. Mais comme tous les provinciaux qui arrivent de la campagne ou quoi que ce soit de Bretagne et qu'ils arrivent à Paris, quoi, d'un coup, ça vous renvoie un peu plus fort à votre identité. Et voilà quoi, donc quand vous montez sur scène et que d'un coup on vous fait dire « mais vous avez un accent, c'est incroyable », alors que moi jusque-là je ne savais pas que j'avais un accent parce que tout le monde parlait comme moi, ma mère, mon père, ma sœur, mes collègues, en fait tout le monde, mes instituteurs et tout, donc c'est là où je me suis pris ça dans la gueule. Et après il y a deux choix, ou vous perdez votre accent et à ce moment-là vous travaillez, vous voyez, pour nier un peu, j'allais dire, votre personnalité et la gommer et voilà quoi, et essayer de rentrer un petit peu dans le moule. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un comme Nils Arestrup, qui était mon prof de théâtre, et qui m'a dit surtout ne le perds pas. Genre, ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi, quoi. Et donc, voilà.
Et vous en avez fait un atout.
Voilà. Et je passe, mais c'est vrai que, par exemple, je me souviens d'avoir fait une émission, d'avoir été limité pour Nulle part ailleurs sur Canal+, et la veille, ils avaient reçu Charlotte Gainsbourg, ils lui avaient installé un piano pour qu'elle joue du piano. Moi, ils m'avaient mis un terrain de pétanque, vous voyez. Donc, voilà. Donc, ça, est-ce que c'est moi qui reflète ça ou c'est les gens? Vous voyez, qui fait quoi dans cette histoire, je ne sais pas bien.
Alors, est-ce que vous pourriez, nous, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que tout le monde, hélas, n'est pas allé à Marseille, nous décrire cette ville? Parce qu'elle n'est pas facile à décrire.
Non, elle est, déjà, c'est la plus vieille ville de France. Donc, voilà, quoi. Donc, évidemment, comme l'a dit un de vos chroniqueurs, c'est vrai que c'est une ville un peu en cul-de-sac. Quand on y arrive, on y reste, quoi. Voilà, ou sinon, on traverse et puis on va en Afrique. Donc voilà, c'est un tel mélange, c'est un port, il y a des disparités sociales énormes, il y a ceux qui habitent au bord de la mer. Moi par exemple, j'ai grandi dans les quartiers nord, et quand vous grandissez dans les quartiers nord, ben vous n'allez pas à la mer, quoi. C'est compliqué, vous voyez, il faut prendre deux bus, vous n'allez pas à la mer tous les jours, quoi. Ouais. Moi quand je partais avec ma mère, la pauvre, c'est une expédition, il faut prendre un bus, après il faut prendre un autre bus, après il faut marcher, après le soir il faut rentrer. Donc, alors qu'il y en a qui habitent au bord de la mer à Marseille, quoi, parce qu'il y a une très large côte. Donc voilà. Donc,
mais quand vous dites les quartiers nord, ça évoque évidemment qu'il y a une réputation un peu sulfureuse, c'est un endroit qui n'a pas très très bonne réputation. Elle était comment votre enfance dans les quartiers nord?
Elle était heureuse, même si je ne sais pas si mon père et ma mère pourraient vous dire la même chose, dans la mesure où ils étaient jeunes aussi. Et nous, on habitait, j'en ai plus le souvenir, moi, mais dans un bidonville, vous savez, autour de la gare, là. D'ailleurs, c'est quand il a vu ces bidonvilles que Claude Nougaro a fait la chanson, vous savez, Regarde-la ma ville, elle s'appelle Bidon, Bidon, Bidonville. Et donc voilà, quoi. Donc moi, quand je suis arrivé, je suis né, j'allais dire, à l'horizontale et j'ai grandi à la verticale, parce que d'un coup, il y avait des immeubles qui n'en finissaient plus, les années 70, quoi, quand on s'est retrouvé dans des HLM. Et là, là, c'est des coups, les grandes places, des clouses partout, donc vous êtes content, quoi. Jusqu'à ce que vous prenez conscience un petit peu du milieu dans lequel vous évoluez, vous vous dites, tiens, putain, on est loin de la mer, on est loin de tout, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de trucs, il n'y a pas de machin. Et puis après, voilà, quoi. Et puis après, il y a des gens qui se débrouillent, et puis toute la misère, on vous la met toujours à vous, vous voyez. L'autre au 9e étage, l'autre au 14e, l'autre au 13e. Donc ça fait qu'elle était sympa, mais pas aussi rose qu'on peut se l'imaginer maintenant. C'était déjà difficile à mon époque.
Ouais. Et vous avez tout de suite fait du foot, c'est ça?
Ben, quand vous habitez dans une cité, vous savez, je vous racontais, parce qu'il y avait une table de ping-pong pour toute la cité. On était à peu près 4000. Donc si vous deviez prendre le gagnant, vous savez, pour jouer, il fallait attendre 2 ans à peu près. Donc, au football, par contre, vous pouvez jouer à 20 contre 20 avec un ballon. Ouais. Et donc, je pense que tout le monde, pour ça que dans tous les quartiers populaires, tout le monde joue au football. Et voilà, quoi. J'ai même eu la chance de jouer un jeune à l'Olympique de Marseille, ce qui est une grande fierté.
Et il paraît que vous avez joué avec Zidane aussi?
Oh non. J'ai joué avec Zidane une fois dans le Jubilé, vous savez. Et pour m'amuser, quoi. Mais j'ai jamais. On n'est pas de la même génération. Mais j'ai jamais joué avec Zidane, non. Mais c'était comme ça, un après-midi.
Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire « Oh, j'ai joué comme ça avec Zidane un après-midi, ça arrive rarement. »
Franchement, j'étais content. J'avais 8 ans, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
D'accord.
Et ils m'ont laissé marquer un but. Je devais être hors jeu de 30 mètres à peu près. Et ils m'ont laissé marquer. Et donc, je peux même dire que j'ai marqué un but avec les cibles de Zidane.
Patrick Bosso, vous restez avec nous. On va continuer à explorer Marseille dans un tout petit instant sur Europe 1.
16h, 18h. Et si on partait? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait tout à l'heure après le flash de 17h, nous irons en Islande. Pour l'heure, nous sommes à Marseille avec Patrick Bosso qui nous raconte sa ville. Alors, on a évoqué un petit peu les quartiers nord, on a évoqué l'âme de Marseille. Est-ce qu'il y a quelque chose de très particulier, je trouve, dans cette ville qui la rend très attachante? C'est que c'est pas une ville, c'est une succession de villages. Et ça lui donne un caractère vraiment particulier, je trouve.
Oui, il y en a, je ne sais plus le nombre exact, mais...
Il y a plus de 100, je crois.
Que des 5, en fait, voilà, c'est ça, quoi. Saint-Saint-Denis, ça rend, je ne m'en peux plus, mais genre Saint-Antoine, Saint-Louis, Saint-André. Et il y a eu une très forte appartenance au quartier. Moi, je vois quand les gens parlent entre eux ou quand vous rencontrez quelqu'un, vous lui demandez la première chose, c'est « t'es de quel quartier ?»
Ouais.
Et en fonction du quartier où il vous dit, tout de suite, ça situe un peu la personne, vous voyez, parce que chaque quartier, c'est vrai que et presque particulier, quoi. Et donc voilà, et j'ai plein de d'amis à moi qui sont nés dans un quartier, qui ont grandi, qui sont mariés et qui vont y mourir, j'espère, le plus tard possible, mais qui ne bougent pas de leur quartier, quoi.
Ouais.
Et pourtant, il y a un énorme sentiment d'appartenance à la ville. C'est une des villes de France dont on est le plus fier de faire partie. On est Marseillais, quoi. Ouais.
Voilà, c'est ça. On est, il y a des autocollants sur les voitures. J'ai jamais la mère de ma fille n'est pas du tout marseillaise et elle était étonnée au début quand elle venait à Marseille qu'elle voyait des autocollants de partout sur les voitures, sur les murs, fière d'être marseillais. Et elle me dit, mais vous êtes fière de quoi? Ben, je dis, d'être marseillais. Ça veut dire quoi? Elle me dit, vous avez fait quoi? Vous avez gagné quoi? Tout ça. Mais je dis, mais pourquoi? Elle n'a pas besoin de gagner pour être fière. On est fiers d'être marseillais, voilà quoi. Et donc, c'est vrai qu'il y a une très forte appartenance à cette ville. Je ne sais pas pourquoi, historiquement déjà, quoi. Jules César, les Marseillais étaient déjà là, ils étaient avec lui. Enfin, voilà, il y a eu plein de choses. Ou l'hymne, la Marseillaise, vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça qui fait que d'un coup, cette ville, je ne sais pas pourquoi. Moi, quand j'ai habité 25 ans à Paris, et quand je remontais, comme on dit, à Paris, les gens me disaient « défends-nous, Bosso, défends-nous à Paris hein. ». Mais je disais « mais défends-nous de quoi ? Qui nous attaque, il y a quoi ?» Et voilà, quoi. Donc il y a un sentiment comme ça de ville, quoi.
Et quand il vous disait « défends-nous », il vous proposait de dire quoi pour défendre Marseille?
Alors c'est ce que je ne comprenais pas, moi. Je disais « mais qui c'est qui nous attaque ?»
Ouais,
mais
ouais.
Qui c'est qui dit des trucs, quoi?
Les supporters du PSG.
C'est sympa. Alors voilà, après, bon, il y a ce truc de football, quoi. Voyez. Mais à part ça, quoi. Moi, j'ai des potes qui adorent le Paris Saint-Germain, et on est potes, et on rigole, et voilà, quoi. Ils ne sont pas non plus...
Il y a un truc qu'il faut quand même dire et qu'on n'évoque jamais assez, c'est que Marseille, c'est une ville à la mer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de quartiers qui donnent directement sur la mer et qui sont incroyables.
C'est ça, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup de potes à moi qui me disent « on mène une vie de milliardaire avec des salaires de clochard ». Parce qu'ils ont un petit cabanon, les pieds dans l'eau, vous voyez. Et... une table, une chaise, c'est cliché de dire tout ça, j'ai l'impression de voyez ce que je veux dire, de parler avec les cigales en fond, mais c'est la vérité, quoi. Et quand vous êtes chez des gens, moi j'ai la chance de côtoyer un peu des gens comme ça ou quoi, et que vous êtes sur leur bateau ou à Saint-Tropez ou je sais pas où, une fois que vous avez mis le cul sur la chaise et que vous êtes sur la table, et vous n'êtes pas plus proche de la mer, vous voyez, des fois même vous êtes plus loin, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a un truc comme ça, et puis il suffit d'avoir un petit bateau à 2000 balles, là, pour aller dans les calanques, dans les criques, et voilà, quoi. Et moi-même, quand j'habitais dans les quartiers nord, une fois que vous aviez pris le bus, vous descendez à la mer, vous baignez toute la journée, vous sautez des rochers, vous remontez chez vous, vous êtes tout salé, tout bronzé et tout, je peux vous dire que vous avez passé une journée magnifique. Et pourtant, ça vous a coûté un ticket de bus, quoi.
Ouais, en plus, vous l'avez dit, il y a une succession de plages qui sont superbes. Moi, j'adorais la plage des Catalans. Ça serait quoi, votre préférée?
Tout à fait. Ouais. Voilà, il y a les Catalans, il y a les Prophètes.
Ouais,
la plage des Prophètes. Ouais. Voilà, c'est des plages dans la ville, quoi. Donc, moi, j'aime bien après, quoi, l'entrée du parc des Calanques, là. Mais je ne vous le dirai pas parce que sinon, déjà, il y a eu...
Ah, c'est Marseille Vert, je crois que c'est Marseille Vert.
Calelongue.
De quoi, voilà, de quoi, voilà, vous parlez? J'ai pas compris. C'est quoi, voilà, Marseille Vert?
Bah, c'est l'entrée des Calanques et des super criques dans ce coin-là.
Voilà. Bon,
ça y est, on a dévoilé le secret.
Ça y est, vous avez dévoilé le secret.
Il a trouvé tout de suite.
Marseille Vert et Calelongue.
Ah, il est très fort.
Voilà, hein, voilà.
Il est très fort.
Voilà, là, vous allez d'un coup de scooter, d'un coup, vous êtes... banne les yeux, vous savez plus où vous êtes.
Ah, c'est merveilleux.
Vous êtes assis en Grèce ou quoi, ouais, c'est magnifique.
Ça. Est-ce qu'il y a un mode de vie marseillais, un rythme marseillais?
Je sais pas. Je pense que déjà, au plus on descend dans le sud, au plus le rythme se ralentit, vous voyez, de par la chaleur. Même vous, hein, c'est quand vous travaillez dehors, en extérieur, qui fait chaud, vous travaillez moins, vous voyez. Mmh. Donc, il y a un peu ça. Et je pense qu'il y a un rythme, il y a une manière d'être, je pense, quoi. En tout cas, moi qui ai habité 25 ans à Paris, moi, j'ai toujours défendu Paris, mais il y a un rythme, vous voyez, à Paris, qui est accéléré, quoi. Vite le train, vite le bus, vite le machin, vite le patin, vite le couffin. Et là, il y a un côté comme ça, un peu plus tranquille. Et bon, après, il y a aussi, comment on appelle ça, le bordel aussi, quoi. Franchement, hein, c'est bordélique, quoi. Tout le monde, il fait comme il veut. C'est un pays à lui tout seul. Chaque personne est un pays, vous voyez. Il a fait ses lois, il a fait ses trucs, il a voté, il est d'accord pour lui-même. Et donc, il se gare en troisième file, vous voyez. Mais donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, en même temps, c'est synonyme de démocratie, vous voyez. C'est un peu le bordel, mais c'est un bordel organisé.
Est-ce que vous dites toujours c'est le why pour dire c'est le bordel?
Ouais, c'est le why. Ah, c'est le why. Alors là, c'est le why.
C'est une ville rebelle, en fait.
C'est une ville rebelle. Franchement, ça m'ennuie de dire ça, parce que j'ai l'impression, quand on dit ça, on a l'impression que les autres villes, c'est des villes qui dorment, vous voyez. Donc chaque ville a sa particularité. Mais c'est vrai que Marseille, c'est jamais, par exemple, si le policier vous dit, enfin, ou n'importe qui, il ne faut pas vous garer là, ben, le mec, il va dire pourquoi. Voilà.
Et que répond le policier?
Eh ben pourquoi? Parce que, et l'histoire, elle dure 3 heures, vous voyez. Et ce pourquoi, il engendre des bordels et des révolutions. Mais après, on s'y fait, on s'adapte. Et moi, des fois, ça m'énerve, mais en même temps, c'est ce qui fait c'est l'identité de ce ville, ça c'est sûr et certain.
Est-ce qu'il y a des clichés que vous entendez sur Marseille qui vous énervent?
Il y en a tellement, vous voyez ce que je veux dire, qu'un CTE, c'est presque compliqué, quoi. Le fait que si on a un accent, par exemple, on peut être moins intéressant ou moins, je ne sais pas dire intelligent, mais moins instruit, vous voyez. Moi, franchement, le peu de scénarios qu'on me propose, je vous parle franchement, j'ai toujours un pantalon jaune, une chemise à fleurs, un chapeau de paille.
C'est horrible.
J'arrive à la deuxième page et je dis, bon alors, qui c'est qui veut boire l'apéritif? Comme ça, après, on mange la soupe de poisson et comme ça, on va faire la sieste. Et je me réveille, je fais la sieste, donc, et je me réveille à la 49e page du scénario. Malheureusement, pour moi, il n'y en a que 48, vous voyez. Donc, on ne m'a plus vu. Et donc, voilà, quoi. Et chaque fois, vous voyez, mais quel accent que ce soit, vous voyez toujours où vous êtes boulanger ou pâtissier, mais vous ne pouvez pas être avocat ou quoi que ce soit avec un accent. C'est un peu ce truc-là, quoi. Mais c'est la même chose avec les acteurs de couleur. Et voilà quoi. Moi, il est arrivé, on m'a dit avec cet accent, c'est pas possible.
Là, on a un Premier ministre qui a un accent.
Voilà. Ça, vous voyez, on commence à progresser.
Ça évolue.
Quand j'habitais à Paris, quand j'habitais dans le 8e, j'avais commencé un peu à contaminer les gens autour de moi et ils commençaient à parler avec l'accent. Et je suis parti trop tôt.
Et puis, vous en avez fait un spectacle autour de votre accent. Le spectacle qui s'appelle Sans accent.
Ouais, sans accent, parce que justement, ça voulait dire que. Pour raconter ce parcours, quoi, qui est le mien, qui est un peu. Me retrouver des quartiers nord dans une cour de théâtre avec Nils Arestrup, Maurice Benichou, vous voyez, des gens comme ça du théâtre, alors que moi, j'étais jamais allé, même pas au cinéma avec mes parents, encore moins au théâtre, vous voyez, rien du tout, quoi. Le plus loin qu'on était allé en culture, nous, c'est grâce à ma mère, c'était en Claude François. Là, on était très fort. Sinon, tout le reste. Et donc, là, je me suis pris mon accent dans la gueule, tout de suite. Tout de suite, la première fois, j'ai joué une scène de Richard III de Shakespeare. J'ai même pas la peine de vous dire plus loin. Vous rigolez déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Rien que j'ai dit ça, déjà, vous riez. Voilà. Et pourtant, j'ai rien dit encore. Vous m'avez même pas vu. Vous m'avez même pas entendu parler. C'est mort.
Vous
c'est
en
mort
avez fait votre force, visiblement.
Ben, écoutez, j'ai essayé, quoi. Vous voyez, mais figurez-vous que c'était malgré moi. Hein. Je me suis dit, bon, mais Patrick, c'est comme ça, on va essayer d'en faire une force. Ouais. Mais c'est pas voulu, quoi.
Merci beaucoup, Patrick Bosseau, de nous avoir raconté.
C'est moi qui vous remercie.
Votre Marseille. Je vous souhaite, je dis pas bon séjour parce que vous y êtes tout le temps. Donc, bon Marseille.
Voilà, et j'espère vous y voir un jour et que vous prendrez bien du plaisir.
Eh bien, avec plaisir, parce que c'est une ville qu'on adore ici. À très bientôt.
Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.
On se retrouve dans un tout petit instant avec les histoires que Nathalie Elal est allée chercher sur Marseille, peut-être d'autres pétomanes, je n'en sais rien, c'est un mystère. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Philippe Googler.
Et si on partait sur Europe 1, un grand voyage tous les jours. En première heure, nous sommes en France. En deuxième heure, nous partons très loin au bout du monde. Tout à l'heure, nous serons en Islande. Pour l'instant, nous sommes donc à Marseille avec Nathalie Elal qui, forcément, va nous parler de bagnole, mais à sa façon. Donc on est impatients.
Oui, alors c'est vrai que moi j'ai eu envie de vous parler de cette trilogie marseillaise, c'est-à-dire Marius, Fanny et César, trois pièces signées Marcel Pagnol, adaptées au cinéma à la fois par lui puis par d'autres, hein, de nombreuses fois, et toujours aussi populaires. Et c'est vrai que beaucoup d'entre nous connaissent hein, cette histoire de Marius. On peut dire que c'est le premier volet de la série. À l'époque, on ne parlait pas de série d'ailleurs. Cette histoire de marin et puis de femme qui attend le retour du marin. Ça pourrait d'ailleurs se passer en Bretagne, mais ici le cadre, c'est le vieux port. Alors pour mémoire, Marius, c'est ce jeune homme qui travaille dans le bar de son père César, le bar de la marine. Mais son rêve à lui, c'est de devenir marin et puis d'embarquer pour de lointaines destinations. Il va être tenaillé entre l'appel du large et puis son amour pour Fanny, la jeune et jolie vendeuse de coquillages. Mais peu avant le mariage, le jeune homme embarque sur un navire, la Malaisie, il va prendre la mer. Fanny se sacrifie, le laisse vivre sa passion et partir, loin d'elle et de Marseille. Et son destin va s'en trouver changé à tout jamais. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que Pagnol, le Marseillais, a trouvé son inspiration devant une pièce belge.
Ça ne m'étonne pas, figure.
Ah, c'est vrai, belge. Vous êtes au courant. Oui. Alors, en fait, dans les années 20, Pagnol est à Paris, il se sent exilé. Hein. Il a le mal du pays, donc il a envie d'exprimer son amour pour sa ville natale en écrivant une pièce. Mais des amis, puis des professionnels du métier l'en dissuadent. Ils disent que l'accent ne va pas plaire, que les personnages sont trop typiques, trop locaux, trop régionaux. Donc, Pagnol renonce à son projet. Et puis, un an plus tard, en 1926... il assiste à la représentation d'une pièce belge, une comédie à succès nommée Le mariage de Mademoiselle Bullemans.
Bullemans,
merci Olivier Bullemans. Pour l'accent.
Ça sent la Flandre.
Oui, ouais. c'est une
non,
pièce...
c'est du bruxellois, c'est bruxellois,
ah bon
totalement
oui,
bruxellois.
Ouais. C'est une pièce en fait qui mélange le français, le dialecte et le svense bruxellois.
Le bruxellaire.
Bruxellaire. Merci Olivier, encore petite leçon de phonétique. C'est un humour typique hein, et très gouailleur ouais. De Bruxelles, on peut dire ça comme ça,
oui,
Olivier.
Oui, c'est une pièce qui est de temps en temps montée encore à Bruxelles et qu'il faut avoir vu. C'est effectivement, c'est l'équivalent. C'est...
Ah oui. C'est ah un ouais. peu la même histoire.
C'est pas la même histoire.
Justement.
C'est pas la même histoire.
Alors, Pagnol comprend que c'est une œuvre locale, mais sincère, et donc ça peut avoir une portée universelle, parce que Mlle Bullemans, c'est la fille d'un brasseur, donc lui, il va transposer son Marius dans un bar populaire de Marseille, et puis il décide d'insérer aussi dans sa pièce un personnage de Lyonnais avec M. Brun, parce qu'il a remarqué dans la pièce belge un personnage parisien dont l'accent contraste avec celui des autres. Donc ah. La pièce Marius, bien sûr, est jouée pour la première fois au Théâtre de Paris le 9 mars 1929, et c'est tout de suite un immense succès. Ça se joue à guichet fermé de nombreux mois. Il y aura 800 représentations en 3 ans.
Ah, c'est dingue, c'est... mais c'est pas un plagiat quand même. C'est...
Non, rien à voir avec un plagiat. C'est le démarrage, enfin, l'idée, ouais. L'inspiration de ce côté décalé
et
du
l'articulation
dialecte.
Des personnages.
Aussi, ouais. Absolument.
Et alors la suite avec Fanny et César ?
Alors en fait, Pagnol n'avait pas envisagé de suite. Et c'est le contrôleur du théâtre qui lui a suggéré d'en écrire une parce que le public venait lui dire par dizaines de personnes « Mais ça peut pas se terminer comme ça !» Donc Pagnol a écrit Fanny très rapidement et puis ils ont monté la pièce 6 mois seulement après la fin des représentations de Marius. Pareil pour César, il y avait une vieille dame sentimentale qui a insisté auprès de Pagnol en lui disant « Il faut que ça finisse autrement, je suis frustrée !» Donc il a obtempéré, il a écrit, et pour notre plus grand plaisir d'ailleurs.
D'accord, dingue. Et alors vous avez d'autres infos comme ça en magasin sur cette trilogie marseillaise ?
Ah oui, vous vous souvenez de la fameuse scène appelée la partie de cartes ?
Ah oui.
On écoute.
Et de quoi ? C'est à toi !
Je le sais bien, mais j'hésite. Et alors tu vas hésiter comme ça jusqu'à demain ?
Oui, non, capitaine, nous vous attendons.
Ah, mon ami, c'est que la chose est importante. Ils ont 32 et
nous
connaissons
le 30. Nous allons en 34.
Oui, c'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd.
Je me demande toujours si Pagny se coupe à cœur.
Et je te répète que quand on joue, on ne doit pas parler. Même pour dire bonjour, mon ami.
Je dis bonjour à personne, je réfléchis.
Mais réfléchis en silence.
Tu me fends le cœur.
Tu me fends le cœur, absolument. Eh bien, Pagnol a failli couper cette scène mythique. Il trouvait qu'elle détonnait trop avec la pièce, qu'elle était un petit peu comme un sketch. Et puis, c'est le directeur du Théâtre de Paris, lui, il ne la connaissait pas. Et Rému, qui joue évidemment César dans la pièce et plus tard dans le film, il dit au directeur du théâtre « Mais il paraît qu'il y a une partie de cartes, un sketch extraordinaire là-dedans et que j'aimerais beaucoup jouer. » Donc, Pagnol a été obligé de montrer cette partie de cartes au directeur du théâtre. Il l'a introduite vraiment en dernière ligne droite, juste à la dernière répétition avant la première.
Ah, dis donc, que d'histoire, que d'histoire. Où est-ce que vous allez trouver tout ça ?
Je bosse la nuit.
Non, le talent.
C'est fou. Vous avez d'autres héros marseillais comme
oui.
ça encore en magasin ?
Un
pétoman peut-être.
Ah, non.
Celui-là, il va rester.
Non. J'ai le chevalier rose avec un Z comme Zorro parce que c'est l'homme qui a permis au XVIIIe siècle d'enrayer l'épidémie de peste qui ravage Marseille en 1720 exactement. Alors Nicolas Rose, il est né en 1675, il a un parcours d'amateur, il participe à la guerre de succession d'Espagne, donc il va être fait chevalier hein, par Louis XIV. Et puis bon, c'est un homme qui est un bourlingueur, donc il a travaillé dans les ports, notamment sur la côte ouest du Péloponnèse. Donc quand il revient à Marseille, il a une vraie connaissance des épidémies qui sont récurrentes à l'époque.
Mm-hmm. Mais alors, qu'est-ce qu'il va faire à Marseille exactement ?
En fait, il va proposer immédiatement son aide aux échevins, hein, qui sont les maires de la ville pendant cette épidémie dramatique. Comme il a cette expérience acquise dans les pays du Levant, c'est-à-dire le Liban et la Syrie, il va être nommé commissaire général pour le quartier de Rive-Neuve, c'est-à-dire la rive sud du Vieux-Port. Il va boucler le secteur, il va élaborer des postes de contrôle, il va faire dresser une potence, un gibet de potence, en vue de dissuader les pillards, parce qu'il y avait malheureusement beaucoup de pillards dans les maisons vides. Il crée un hôpital pour abriter les malades, parce que l'Hôtel Dieu est saturé. Il organise aussi le ravitaillement de la ville. Il prévoit absolument tout. Par exemple, on sait que pour nourrir les bébés orphelins, il fait venir des chèvres. Il va même dépenser sa propre fortune pour subvenir aux besoins des orphelins et des nécessiteux.
Et son action la plus héroïque ?
Elle est absolument incroyable, parce que nous sommes en plein mois d'août 1720, par une chaleur semblable à celle que nous connaissons ces jours-ci, imaginez. Et il y a plus d'un millier de cadavres morts de la peste qui sont amoncelés sur l'esplanade de la Tourette, qui est un quartier pauvre du port. Donc il y a une puanteur absolument indescriptible. On pourrait dire aujourd'hui que c'est une situation d'urgence sanitaire. Donc le chevalier Rose, eh bien, il a l'idée de creuser de grandes fosses sous les murailles et il va enrôler les forçats des galères de l'arsenal pour déblayer l'esplanade. Parce qu'à l'époque, il y a un arsenal à Marseille avec des galères, hein, qui sont des vaisseaux longs et effilés destinés à l'escorte ou au combat. Et pour les faire naviguer, il y a évidemment des forçats ou des condamnés de droit commun qui constituent ce qu'on appelle la chiourme. Donc ils sont très nombreux, ils ont les fers aux pieds. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur promettre la vie sauve. Il va leur dire, voilà, si vous arrivez à déblayer tous ces cadavres, et si vous réchappez surtout de la peste, vous aurez la vie sauve, vous serez libre. Donc il va diriger 150 soldats et forçats, équipés de tombereaux, de pinces et de râteaux. Ils vont déblayer tous ces cadavres, les jeter dans les fosses, les recouvrir de chaux vives. Puis dès que les forçats meurent, naturellement, ils sont remplacés par d'autres. Il faut bien vous dire que sur le total de 1200 volontaires et forçats chargés de combattre la peste, il y a eu seulement 3 survivants.
Ah bah dis donc.
Et le chevalier Rose lui-même, il a été atteint de la peste, mais il en a réchappé. Il faut vous dire que les chances de survie de la peste à l'époque, c'était seulement de 20 à 40% en l'absence de traitement moderne d'antibiotiques.
Et c'est resté dans la mémoire collective.
Absolument.
Cette peste à Marseille, c'est vraiment incroyable. Hein.
Oui.
Merci beaucoup Nathalie Hélal. Dans un petit instant, on va parler d'un classique.
Bah, ce sera plus réjouissant que la peste.
Ce sera plus réjouissant, là, on va remonter un petit peu la pente.
Oui, je vous le souhaite davantage.
La bouillabaisse.
Eh oui.
Tout sur la bouillabaisse dans quelques secondes avec Olivier Pouls.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Nous voyageons tous les jours, librement, sans frontières, sur Europe 1. Tout à l'heure, nous irons au pays de la glace et du feu, des volcans et des glaciers. Nous irons en Islande. Et là, tout de suite, sur Europe 1, nous sommes à Marseille avec Olivier Pouls, notre chroniqueur, j'ai toujours du mal à le dire celui-là, je ne sais pas pourquoi.
Chroniqueur
gastronomique culte.
Ah, culte, j'aime bien.
Ouais, c'est pas mal, ça.
Surtout culte.
Je savais que ça vous ferait
c'est
plaisir.
C'est votre fête aujourd'hui. Ah, vous, hein.
Surtout que je vais vous parler de la bouillabaisse.
Mais oui.
Alors, franchement, c'est quand même la joie. Hein.
J'adore ça.
Oui, il paraît que vous êtes, quand vous parcourez le monde, vous recherchez la bouillabaisse où que vous soyez.
Oui, oui, partout, dans tous les restaurants du monde. Si je vois bouillabaisse, j'en prends une. Sauf que quand vous êtes au fin fond de la Mongolie.
Oui.
Ou au fin fond
il y a
du...
peu de chances que ce soit équivalent à celle de Marseille.
Bouillabaisse de mouton, c'est pas mal.
Il y a peu de chances que ce soit réussi et je vous réponds que effectivement, ce n'est jamais réussi. C'est toujours...
Parce que la bouillabaisse, c'est quand même une histoire sérieuse. Là, on parle, on va être sérieux deux minutes. On parle pas de n'importe quoi parce que la bouillabaisse authentique, la vraie, l'unique, elle fait d'ailleurs l'objet depuis 1980 d'une charte. C'est-à-dire que cette recette a été protégée. Pourquoi ? Parce que finalement, on y a mis à peu près n'importe quoi, alors que ce vrai plat authentique, il est plus que millénaire. On le trouvait déjà au moment de l'Antiquité, lorsque les Grecs, au 7e siècle avant Jésus-Christ, ont fondé Marseille, Massalia. Mmh. Eh bien, les habitants mangeaient un plat qu'on appelait le cacavia à l'époque, qui était cette soupe de poisson.
Cela dit, ça n'a rien d'incroyable, c'est une soupe avec du poisson.
Alors,
ça doit remonter à des millions d'années.
Oui,
même.
Alors c'est un plat de pauvre en réalité qui est devenu aujourd'hui un plat de riche. C'est un peu le paradoxe, parce que finalement, qu'est-ce que c'était que cette bouillabaisse ? C'était une soupe dans laquelle les pêcheurs mettaient les restes de poissons ou les poissons de roche qu'ils n'avaient pas pu vendre. Et plutôt que de les jeter, ils les mettaient dans cette soupe, ils les faisaient bouillir et puis ils les mangeaient. Et c'est un ragoût de poisson. Et d'ailleurs, le nom de bouillabaisse vient de l'occitan provençal, qui veut dire bouillabaisse, c'est au moment où ça boue, on baisse le feu.
Ah,
et on
génial,
laisse cuire
ça.
Tranquillement.
Au moment où ça boue, on baisse.
Exactement. Ça boue,
ah,
on baisse.
Drôle,
et on laisse cuire tranquillement. Alors, revenons à notre charte de la bouillabaisse, puisque je vous l'ai dit, depuis 1980, un certain nombre de restaurateurs, las de voir que la bouillabaisse devenait à peu près n'importe quoi, se sont dit, il faut revenir aux fondamentaux. Donc, ils ont rédigé cette charte qui précise ce que doit être l'authentique, la vraie recette de cette bouillabaisse. Alors, ce sont des poissons de roche très frais qui en font la base. Rascasse, rouget, vive, Saint-Pierre ou congre. Du bouillon, évidemment, un court bouillon. Des croûtons, des pommes de terre qui sont cuites à l'eau et auxquelles on peut rajouter un petit peu de safran. Et puis, évidemment, l'incontournable rouille. Et la bouillabaisse se sert surtout en deux services. Premier service, la soupe de poisson avec vos croûtons frottés à l'ail et la rouille. Et ensuite, deuxième service, on va vous apporter les poissons avec les pommes de terre. Et ça se mange forcément en deux temps. Et indispensable, évidemment, une rouille authentique. Et
la rouille, c'est tout un art, d'ailleurs, aussi.
Et oui, parce que là aussi, la rouille, plein de gens pensent que c'est en fait une espèce de mayonnaise dans laquelle on aurait rajouté un petit peu d'ail. Mais non, non, la vraie recette de la rouille, c'est avec de la pomme de terre, du foie de lotte, du piment, de l'ail, et le tout est monté à l'huile d'olive. Il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de jaune d'œuf dans l'authentique rouille. Ça, c'est une espèce d'ersatz de mayonnaise qui n'est pas reconnue comme étant la vraie.
Et puis, faut savoir faire la soupe elle-même aussi. C'est difficile.
Alors, ça. Les vrais, les bons, parce qu'on peut manger, on mange encore de très très bonnes bouillabaisse à Marseille. Deux adresses à vous donner. Tiens, on peut aller chez Michel en face de la plage des Catalans. Authentique bouillabaisse. Et en fait, ce qui fait la force, la puissance de cette soupe, c'est que c'est une espèce de bouillon perpétuel. Et en réalité, vous allez rajouter des poissons, puis vous allez en prélever, puis vous allez remouiller avec de l'eau, rajouter des poissons, et ainsi de suite.
Mais ça bouge combien de temps comme ça?
Vous savez, pratiquement dans les restaurants qui en font en permanence, c'est en constamment sur le feu.
Ah oui.
C'est-à-dire que vous avez toujours cette grande casserole qui bout, dans laquelle on prélève et dans laquelle on rajoute. Ah, et okay. Donc ce fond de bouillon, finalement, c'est lui qui donne toute la puissance et tout l'intérêt à cette bouillabaisse.
Alors, à part la bouillabaisse, est-ce qu'il y a des plats emblématiques encore à Marseille?
Évidemment, alors on pourrait parler des pieds paquets, de l'anchoyade, les panisses. Moi, j'adore les panisses qu'on peut manger comme ça sur le vieux port. Alors, vous savez, c'est une espèce de petite frite à la farine de pois chiche qu'on mange, on se brûle un petit peu les doigts, et elle sort de la friteuse. Moi, j'adore ça. Ou un bon aioli aussi, l'aioli, plat typiquement provençal et marseillais. Mais attention, parce qu'on confond souvent le plat et la sauce.
C'est différent.
Eh oui, le véritable aioli, le grand aioli, c'est un plat complet. C'est pas juste une sauce, c'est pas juste une mayonnaise avec de l'ail.
Et c'est quoi le grand aioli?
Alors le grand aioli, c'est de la morue, des légumes, des bulots, on est peut-être un peu surpris, des supions, des œufs, on peut même y trouver des escargots. L'authentique aioli, on trouve également des escargots, pommes de terre et bien sûr la fameuse mayonnaise à l'ail dans laquelle on va tremper progressivement chacun de ces ingrédients et on va se constituer ces petites bouchées.
Donc on peut commander un aioli avec de l'aioli?
Normalement, si on vous vend à la carte d'un restaurant un aioli, vous allez avoir tout ça. Vous allez avoir un plat complet et pas simplement une sauce.
D'accord. Et on arrose ça comment?
Un petit pastis,
ah
par
oui,
exemple.
Tout le long du repas?
Non, alors là, pour le coup, le pastis, c'est plutôt l'apéro. On arrosera ça avec des vins rosés ou des vins rouges ou des vins blancs plutôt de la région, puisqu'à Marseille, dans la ville de Marseille, il n'y a pas de vignoble, mais le fameux pastis créé par Paul Ricard au début du XXe siècle et qui fait suite en fait en 1915 à l'interdiction de l'absinthe, qui était considéré comme un alcool qui rendait fou, et bien lui a eu l'idée de faire un alcool moins alcoolisé, avec des taux d'alcool moindres, et puis avec cette recette unique aussi, avec évidemment ce petit goût anisé, mais avec d'autres petites épices, puisque pastis en provençal ça veut dire mélange.
Ah ouais.
Et le fameux pastis de Marseille est né lui en 1932.
Qu'est-ce qu'on apprend comme truc. Je vous ai senti plus heureux que sur la Mongolie hier soir.
Oui, c'est une gastronomie qui m'évoque davantage de choses, voyez-vous.
Je préfère aller
casser la croûte à Marseille qu'à Ulaanbaatar. Voilà. Mais on va se rattraper parce que tout à l'heure on va en Islande et je vous réserve quelques petites spécialités locales.
Ah oui.
Pas piquer des verres,
je vais vous dire,
accrochez vos ceintures.
Je vois ce que vous voulez dire. À tout de suite sur Europe 1 avec les bons plans de Jean-Bernard Carrier pour découvrir Marseille.
Europe 1, Philippe Googler.
Nous sommes à Marseille jusqu'à 17h sur Europe 1. Et avec Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet, nous allons vous dévoiler les bons petits secrets pour profiter de la vie. Alors tout à l'heure, vous avez révélé un endroit que Patrick Bosso ne voulait pas révéler, ouais. un accès à une plage merveilleuse.
On signale un embouteillage d'ailleurs depuis tout à l'heure. À l'entrée de la plage.
Oh, je le redis à l'antenne, c'est Calelongue et Marseille Vert. Voilà.
Et qu'est-ce que c'est, rappelez-nous ?
Eh ben, c'est l'entrée des Calanques.
Mais il y a plusieurs entrées.
Alors, il y a celle-là qui est l'entrée principale, c'est à l'extrémité de Marseille, parce que les Calanques, c'est un parc national, un paradis naturel complètement sauvage et préservé qui s'étend entre Marseille et Cassis. Ça fait à peu près 20 km à vol d'oiseau, c'est tout 20 km. Ouais. Mais c'est un univers d'un dépaysement absolu. C'est quoi des Calanques déjà ? Il faut quand même le dire. Ce sont en fait des fjords. Oui, vous avez des fjords à Marseille, alors ce n'est pas les fjords de Norvège. C'est des fjords dans les falaises calcaires. C'est une succession de fjords, une ambiance complètement sauvage. Il n'y a absolument aucune habitation. Et chaque fjord, chaque échancrure dans la côte a une physionomie différente. Chacune a sa personnalité. Il y a un seul dénominateur commun entre toutes ces Calanques, c'est qu'elles sont toutes léchées par des eaux tantôt bleues, tantôt émeraudes. Ce sont des vrais paradis. Chacune.
Ouais. Et quand on peut se retrouver seul quelque part dans ces endroits, c'est absolument romantique.
Alors, pour les explorer, il y a plusieurs façons de faire quand même. C'est pas très simple parce que c'est vraiment un parc national, donc l'accès est un petit peu compliqué. Il faut se bouger un peu, il y a un petit côté sportif aussi pour les découvrir.
Ça se mérite.
Ça se mérite, exactement, Olivier. Alors, moi, je l'ai fait à pied. En deux étapes. Vous pouvez le faire, vous pouvez couper, vous faites 6 heures de marche le premier jour, 6 heures de marche le deuxième jour. On traverse tout le massif en suivant un sentier balisé. Et là, vous aurez une succession. Vous allez vraiment découvrir toutes les Calanques les unes après les autres avec des points de vue absolument exceptionnels. Et surtout, il y a le plaisir des sens. Je sais que vous êtes sensible, Philippe. L'odeur de la garrigue, le bleu de la Méditerranée, le calme absolu et des panoramas absolument somptueux. J'insiste vraiment là-dessus parce que si vous êtes photographe, vous aurez des photos extraordinaires. La deuxième option, qui est un petit peu moins sportive, c'est possible de le faire aussi avec des excursions en bateau au départ de Cassis ou de Marseille. Là, vous allez passer un petit peu à la formule, j'appelle ça la formule un petit peu bateau-mouche, hein, vous passez d'une calanque à l'autre. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas autorisé à débarquer dans les calanques. Oui. Donc vous les voyez de l'extérieur, c'est très beau aussi vu de la mer, mais vous n'avez pas le privilège de les visiter les unes après les autres. Vous les voyez un petit peu à distance. Alors l'idéal, côté mer, c'est ce que j'ai fait également, c'est le kayak de mer. Alors
c'est là, votre truc, le kayak, c'est vraiment son truc. Hein.
Le kayak, pourquoi ? Parce que ça vous permet vraiment de vous approcher au plus près de chacune de ces...
Si vous suivez Jean-Bernard Cayet, vous faites le tour du monde en kayak.
Vous faites les bras aussi, hein. Vous faites les bras au passage. Hein.
Alors, c'est un peu les bras, et ça vous permet d'aller vraiment au contact. Moi, j'aime bien ce côté immersion, le côté effectivement physique. On est vraiment on est dans les calanques, vous êtes au plus proche, et vous êtes vraiment avec le bruit de l'eau au plus facile. Voilà.
Et votre calanque préférée, alors ?
Alors, moi, j'adore la calanque de Morgiou. Parce qu'elle est habitée, c'est l'une des deux qui sont habitées. Alors quand je dis habitée, c'est quelques cabanons. Vous savez ce que c'est que les cabanons ? C'est les petites maisons, les anciens abris de pêcheurs qui ont été reconvertis en petite habitation, à la petite terrasse, petite tonnelle. Donc il y a des petits cabanons, il y a un petit port de pêche miniature, toute petite plage comme je les aime bien, et un restaurant qui sert évidemment des plats de poisson, et notamment des bouillabaisse sur commande, mon cher Olivier.
Qui sont bonnes ?
Qu'elles sont bonnes, elles sont pas mal du tout. Et puis voilà, donc vous promenez dans cette calanque, elle est très longue, je l'aime bien parce qu'elle est aussi très profonde, très longue, elle fait presque plus d'un kilomètre de long, c'est vraiment un vrai fjord celle-là, très impressionnant.
Ça donne envie, on a envie d'y aller tout de suite.
Et on peut se baigner évidemment.
Et on peut se baigner dans cette petite plage-là justement. Ouais.
Et est-ce qu'on peut aller de sa table à la baignade et à la table et à la baignade.
Mais c'est le programme de la journée.
Ah, j'aime bien ce programme.
C'est exactement ça.
Pour digérer la bouillabaisse.
Voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller en kayak à la calanque de Morgiou. Elle est relativement facile. C'est une des plus faciles d'accès. Mais il faut quand même marcher 50 minutes depuis le parking en haut. Voilà. C'est faisable quand même.
La rade de Marseille.
La rade de Marseille, pour vous qui êtes plongeur, c'est synonyme de plongée, tout simplement. Parce qu'il y a des épaves absolument magnifiques. Qui repose au large de l'archipel de Rioux. Il y a notamment un gros paquebot qui a fait naufrage en 1903, figurez-vous, qui s'appelle le Liban. Il repose entre moins 25 et moins 36 mètres de fond. C'est un monstre qui fait 90 mètres de long. C'est un paradis pour les plongeurs parce qu'il y a énormément de faune, de poissons, de congres, les fameux poissons de qui servent à la bouillabaisse, entre autres. Il y a aussi des poissons un petit peu du large. On voit des barracudas, des dentis, des lâches, des liches et tout ça autour de ce monstre. En plongée, c'est vraiment un must à faire. Il y a une autre île que j'aime beaucoup, c'est l'île de Planier pour les plongeurs. Là, il y a trois épaves autour de cette petite île, dont une épave qui s'appelle le Messerschmitt. C'est un avion de chasse de 1944 qui a été coulé lors de cette guerre, Deuxième Guerre mondiale, et c'est à moins 45 mètres.
Et si vous écoutez bien Europe 1, c'est le seul endroit où on peut avoir à la fois des cigales et être sous l'eau. Vous entendez ?
Ouais, le mélange. Et pourtant, ce n'est pas des cigales de mer.
Vous savez ce qu'on dit ? Marseille, c'est pas pareil.
Très rare. Très, très rare. Alors,
Marseille, c'est pas pareil.
C'est aussi une ville de culture.
Oui, oui.
Beau beaucoup de choses à Marseille.
Bah, il y a le fameux Mucem. Difficile de parler de Marseille sans parler du fameux Mucem qui a ouvert en 2013. C'est quand même relativement récent. Pendant l'année de la capitale européenne de la culture, le Mucem, c'est le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Alors, ce qui est bizarre, c'est que ce musée-là, il y a une architecture complètement dingue. Ça ressemble à une espèce de gros cube qui fait un gros carré qui fait 72 mètres de côté. C'est vrai que ça a fait sensation lorsqu'il a été inauguré en 2013. Et puis ce gros cube, une sorte de casbah verticale selon les termes de l'architecte qui s'appelle Rudy Ricciotti, bah ce gros cube, il est habillé de résille en béton, comme des barésilles, mais sauf que c'est du béton tout autour.
Sexe.
Ça fait très bizarre dans le quartier Saint-Jean. Il y a le fort de Saint-Jean à côté et vous avez cette espèce d'architecture voilà, qui est quand même très surprenante, mais de très très belles expositions à l'intérieur. C'est consacré bien sûr à l'histoire de la Méditerranée, donc ça fait vraiment partie aussi de la culture marseillaise, la visite de ce musée. Et il y a plein d'expositions temporaires également, dont une en ce moment qui est consacrée à l'expo à l'Orient sonore, voilà, sur les traditions musicales autour de la Méditerranée. À ne pas louper, c'est jusqu'en février prochain.
Un autre monument qui vaut le détour?
Ah, un monument qui laisse pas indifférent non plus. Celui-là, décidément, Marseille, tout est clivant. La cité radieuse du Corbusier, à deux minutes des plages du Prado, du stade Vélodrome. Vous en pensez quoi, vous, Nathalie? Vous aimez pas, je crois,
non,
le Corbusier?
Non, je trouve ça un peu déprimant, mais enfin, c'est juste mon avis.
Voilà, donc c'est
je
un espèce
Je préfère aller
de...
au Château d'If.
Bon, je rappelle quand même ce que c'est que cette cité du Corbusier. C'est un espèce de gros HLM, si on peut dire, ça ressemble à ça, qui fait 137 mètres de long. Il est sur pilotis et le Corbusier voulait en faire une ville à l'intérieur. Donc vous trouvez tous les services à l'intérieur et notamment un hôtel 3 étoiles dans lequel j'ai dormi. Vous avez une petite architecture un peu vintage, tout est coloré, les loggias sont colorées. C'est du béton brut, c'est très fonctionnel. Voilà, c'est un esprit. Je signale quand même que c'est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2016, la cité radieuse du Corbusier, mon cher.
J'aime bien les choix que vous faites. Alors, Nathalie Hallal nous choisit un pétomane pour parler de Marseille. Vous, vous mettez en avant la cité radieuse.
Heureusement qu'il y a la bouillabaisse pour sauver tout ça. Hein.
Chacun ses sales goûts, comme je dis toujours.
Bon, j'ajoute quand même, pour être un peu plus consensuel, il y a aussi le stade Vélodrome qui se visite. Ça fait partie aussi des étapes culturelles incontournables de la ville.
Merci Jean-Bernard Carrier de nous avoir fait explorer Marseille à votre façon. Dans un petit instant, après le flash de 17h, nous allons partir aux limites du cercle polaire. Prenez votre doudoune. Un pays magnifique que j'adore, pays de volcans bouillonnants qui est comme un chaudron posé au milieu de l'océan, un pays de feu, de glace, un pays de sensations, tout ça donnant évidemment des paysages sublimes. Nous irons en Islande, à tout de suite sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1. Il est 17h, les infos, Sophie Echen.
Trois policiers ont été attaqués dans un square parisien cet après-midi. Deux d'entre eux sont grièvement blessés. Selon les informations du service police-justice d'Europe 1, ils tentaient de contrôler un homme qui les a attaqués à coups de barre de fer. L'un des agents a riposté en tirant à plusieurs reprises avec son arme de service. L'agresseur a été touché de plusieurs balles. Lui aussi se trouve dans un état grave. Après les fortes chaleurs, la grêle et les orages, une perturbation arrive par l'ouest en cette fin de journée. La majeure partie du pays est en vigilance orange aux orages ou à la canicule. Terminée en revanche l'alerte rouge dans les Hauts-de-France et la région parisienne. Conséquence de la canicule, la centrale nucléaire de Golfech dans le Tarn-et-Garonne ne fonctionne plus. Ses deux réacteurs ont été mis à l'arrêt, notamment pour éviter qu'en aval la température de la Garonne ne dépasse pas les 28 degrés. Cela ne provoque aucun impact sur l'approvisionnement en électricité. La centrale de Golfech avait déjà été arrêtée l'été dernier en raison d'un épisode caniculaire. En Lozère, les derniers participants à une rave party géante organisée ce week-end ont quitté les lieux. L'évacuation s'est déroulée sans heurts, précise la préfecture. La fête avait réuni jusqu'à 10 000 personnes dimanche en dépit des règles sanitaires. Un énorme panache de fumée dans le ciel après le déraillement d'un train à Stonehaven dans le nord-est de l'Écosse. Il y a déjà plusieurs blessés graves mais pas encore de bilan officiel. La première ministre écossaise Nicola Sturgeon évoque un incident extrêmement grave. Le Royaume-Uni confronté à une récession historique. Son PIB chute de 20,4% au deuxième trimestre. Conséquence de la crise du coronavirus avec le confinement et la mise à l'arrêt de l'économie. En France, près de 1400 nouveaux cas de Covid ont été recensés au cours des dernières 24 heures. Le Premier ministre demande aux Français de se ressaisir et de respecter les mesures barrières. Il appelle les préfets à étendre le port du masque dans l'espace public. Il sera d'ailleurs obligatoire à Bordeaux, dans les rues Sainte-Catherine et Porte d'Ijo dès ce week-end. Et puis la préfecture du Cantal annonce cet après-midi que le masque sera désormais de rigueur sur les marchés de plein air, les brocantes et les vides grenouilles. grenier. La fréquentation du château de Versailles s'écroule à cause de l'absence des touristes étrangers. Seulement 10 000 visiteurs par jour en ce moment, soit 3 fois moins que d'habitude. C'est l'une des conséquences de la crise sanitaire et de la fermeture des frontières. Le foot avec le retour des Lensois promus en Ligue 1. Nice-Lens, ce sera le match de la première journée de Ligue 1 le 23 août. La rencontre se jouera à huis clos. Et puis autre rencontre à huis clos, le Paris Saint-Germain qui va tenter de saisir sa chance ce soir contre l'Atalanta Bergame, quart de finale de Ligue des Champions à Lisbonne. Le club parisien qui fête d'ailleurs ses 50 ans aujourd'hui, alors pourquoi ne pas s'offrir une place en demi-finale pour l'occasion? Ce serait une première pour le PSG depuis 25 ans. Pour ça, il faut gagner ce soir. Évidemment, la rencontre est à suivre en direct sur Europe 1 à partir de 20h. Mais avant cela, on vous retrouve, Philippe Googler, pour la suite de votre émission Voyage et Découverte. Philippe, c'est à vous.
Merci Sophie, à très vite. Prochain rendez-vous avec l'info tout à l'heure à 18h.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Nos escapades continuent tout de suite en toute sérénité avec Shiva, ménage et repassage à domicile.
Et si on partait, c'est l'été, tous les jours un grand voyage et je vous emmène maintenant dans une marmite bouillonnante, brûlante, un chaudron volcanique. C'est la plus grande île volcanique du monde avec des paysages spectaculaires de lave, de volcans, de glaciers gigantesques, de geysers. Je vous emmène maintenant en Islande. Décollage tout de suite.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
En Islande, on fait des drôles de rencontres. J'ai rencontré, et c'était sur un tournage de Faut pas rêver, un pêcheur de requins du Groenland. Alors le requin du Groenland, il faut savoir que il a une chair dont, en général, on dit qu'elle est toxique. Et elle est pourtant très prisée des Islandais. Et je vais maintenant vous raconter pourquoi. J'avais pris rendez-vous avec ce pêcheur de requins du Groenland devant sa maison. Alors le décor est parfaitement islandais. C'est une maison isolée, près d'une côte déchiquetée par la mer. Il y a des nuages gris bas menaçants. Mais une herbe verte, d'un vert étincelant, tellement étincelant qu'on a l'impression que c'est l'herbe qui illumine le jour. Bref, je retrouve le pêcheur en train de soulever avec une grue un énorme poisson. Un gros poisson, une grosse bête d'environ 3 mètres de long et qui a déjà été vidé. Donc le poisson est suspendu par la grue, queue en l'air, tête en bas et ventre ouvert. Pour vous dire que le spectacle est charnu, pas tellement fait pour les végétariens. Alors je m'approche du pêcheur. Il est assez cool, en ciré orange, avec un gros couteau à la main. Et sa première phrase, c'est « Ah, c'est une belle bête, hein ? Elle doit bien faire 600 kilos !» Et visiblement, il est vraiment très content de sa prise, le pêcheur. Et moi, je lui demande, si, comme c'est un requin, si c'est un animal méchant, agressif. Et il me répond « Oh non, non, bon, peut-être il te mangerait. Il te mangerait juste si t'étais mort au fond des mers, environ 1000 mètres de profondeur. Il mange juste des cadavres. C'est un charognard des mers. » Bon, je peux quand même pas m'empêcher de dire au pêcheur que tout de même, il y a comme une petite odeur aigre qui flotte. Et là, surprise, il me dit « Non, 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 ça sent bon ça, ça sent très bon, c'est génial !»« Ah bon, vous appelez ça une bonne odeur, on n'a pas le même sens de la bonne odeur. » Et là, il m'invite à plonger la tête à l'intérieur de l'animal, là où il y avait le foie. Et là, un truc énorme, un truc puissant, un torrent d'effluves de pourri et d'ammoniac m'envahit la tête. Alors je ressors immédiatement la tête, c'est absolument écœurant. Et le pêcheur rigole. Ah, mais c'est bon, hein, c'est très bon, hein, t'as vu ça, la belle odeur? Et je lui réponds, mais non, mais enfin, ça sent pas bon du tout. Mais comment vous pouvez trouver ça bon? C'est impossible! Et là, il me répond, fait une réponse extraordinaire, mais c'est parce qu'il est parfait. Il est parfait, ce poisson. Il est pareil aujourd'hui qu'il y a 60 millions d'années. Il a tout vécu, tout traversé. Il est parfaitement conçu. Et alors, le pêcheur se lance dans une explication passionnée. Il m'explique que cet animal venu du fond des âges est capable de vivre très très vieux et qu'il n'urine pas. Plus exactement, qu'il urine par tous les pores de sa peau, comme la sueur.
et que donc sa chair contient beaucoup d'acide urique, l'acide urique que normalement on élimine dans les urines. Et donc que sa chair, normalement, est absolument impropre à la consommation, sauf pour les Islandais. Et les Islandais, ils ont leur technique à eux. Ils font fermenter cette chair bizarre à l'air libre durant plusieurs mois. Donc il faut imaginer un goût d'urine avec en plus la fermentation. Eh bien, j'ai goûté. Le pêcheur pique un petit morceau au bout d'un couteau et il me fait sentir. Et je reconnais bien l'odeur d'ammoniac. Là, il me demande d'ouvrir la bouche. J'hésite un peu. Et en fait, j'ai pas trop le choix parce que sinon je vais le vexer. Il pose le morceau de poisson sur ma langue et là, eh ben rien, pas grand chose, juste le goût d'une petite tranche de poisson blanc froide sans beaucoup de saveur. Je suis un peu surpris et je me trompais. Car au bout de 10 secondes arrive la deuxième vague. Et que dis-je deuxième vague ? Le déferlement, le tsunami, un ouragan épouvantable d'ammoniac qui pique, qui emporte la bouche et le nez. Ça me fait crier quelque chose du genre « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Je pense même à cracher. J'ai peur de me brûler l'œsophage avec ce truc-là. Et le pêcheur rigole. Donc j'avale. La tempête s'éloigne doucement. Et le pêcheur est mort de rire. Cette aventure gustative, je dois vous dire, est à l'image de toute l'Islande. C'est inattendu, puissant. Et c'est un torrent d'émotions.
Europe 1, 16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Et si on partait sur Europe 1 tous les après-midi, un grand voyage ? Nous sommes en Islande. Alors Jean-Bernard Carrier, pour situer l'Islande, où est-ce qu'on, on sait qu'on est dans l'océan, mais à quelle hauteur ?
Océan Atlantique Nord, on est tout près du Groenland, juste en dessous du Groenland. Les côtes groenlandaises sont à peu près à 300 km de l'Islande. Vous voyez, on est vraiment dans le nord.
À la limite du cercle polaire.
Exactement, à la limite du cercle arctique, donc polaire. Ce pays, c'est un petit pays, l'Islande. Enfin, c'est une île, mais elle fait à peine 100 000 km², c'est-à-dire à peu près trois fois la Belgique, mon cher Olivier. Pour vous,
je vois bien.
Voilà. pas beaucoup d'habitants, 350 000 habitants, ce qui fait là aussi une densité très faible de population. On y va vraiment pour la nature dans ce pays-là. Et quelle nature, hein, vous l'avez dit. Des champs de lave, des glaciers, des deltas de sable, des calottes glaciaires et bien sûr des volcans dont certains se réveillent. Comme vous vous souvenez, en 2010, le Eyjafjöll
qui avait perturbé.
C'est pas un nom un peu plus long que ça ? Il est pas raccourci, là ?
Je pense qu'il y a une partie qui a été raccourcie. Hein, on le surnomme l'Eyjafjöll qui avait perturbé tout le trafic aérien en avril 2010. Hein. Voilà, pour résumer l'Islande.
On dit qu'il y a en moyenne une éruption volcanique importante tous les 5 ans en Islande.
C'est la moyenne. Donc
C'est une marmite, ça bouillonne sans cesse.
On est sur une marmite glacée. Paradoxe.
Nous sommes en ligne avec Arnaud Guérin, qui est géologue, photographe, auteur et surtout grand voyageur, puisque Arnaud, vous avez fait depuis 2002, je crois, 60 allers-retours en Islande. Je crois que vous aimez bien la région.
Oui.
Bonjour Arnaud Guérin.
Vérifie encore.
Bonjour Philippe.
Vous avez fait paraître deux livres, Les deux saisons de l'Islande, un livre, je me mélange. Les deux saisons de l'Islande, du soleil de minuit aux aurores boréales, qui est disponible aux éditions Glénat. Et vous avez dit, l'Islande, c'est un pays addictif. Il met à bas tous nos repères. Et même quand on y a été très souvent, on se retrouve en état de manque. C'est fort ce que vous dites. Vous pouvez m'expliquer ça ?
Ben, en fait, c'est ce que je suis en train de ressentir là avec le coronavirus. Je suis bloqué dans ma Normandie natale. Pas de voyage en Islande cet été. Pour moi qui suis allé plus de 65 fois dans ce pays, à chaque fois que je rentre, je me dis quand est-ce que je repars. Et au bout de 2 à 3 mois, j'ai cette envie, c'est une envie d'un rapport qui est un rapport tout à fait particulier et singulier à la nature. Comme l'a dit votre journaliste, l'Islande, c'est un cinquième de la France avec 350 000 personnes, dont 250 000 à Reykjavik, 50 000 à Kureri, la capitale du Nord. Et puis après, c'est un espace, comme disent les anglo-saxons, c'est le wilderness, c'est-à-dire c'est la nature sauvage à l'état brut. Et pour moi qui suis géologue et photographe, C'est le tellurique qui s'exprime à travers ces éruptions volcaniques, à travers ces failles, et puis ces lumières qui sont des lumières de premier matin du monde. C'est un pays sans arbres, c'est un pays avec des mousses fluorescentes, avec des coulées de lave partout. C'est un pays qui est totalement subjugant et qui vous met complètement par terre en termes de repères, puisque vous n'avez pas la verticalité de la végétation qu'on a chez nous. Vous avez juste la minéralité de ces paysages.
C'est un pays, vous dites, de sensations fortes. Quelles sensations ?
Alors la première sensation, c'est une sensation qui est liée au climat, c'est-à-dire que vous en prenez plein la tête, pour pas dire autre chose. C'est-à-dire que le climat est extrêmement fort, peut être extrêmement violent, ça change en permanence. La deuxième chose, c'est une sensation qui est une sensation visuelle, c'est-à-dire que c'est un pays où on voit extrêmement loin. Ce sont des reliefs qui sont des reliefs volcaniques. Peu élevé, donc on a toujours des horizons qui sont toujours des horizons extrêmement dégagés, et en plus comme on n'a pas de végétation, le regard n'est pas arrêté. La troisième sensation, c'est une sensation olfactive parce que en Islande la terre respire par tous ses pores, et donc on a cette odeur de soufre qui est présente un petit peu partout, cette odeur d'œuf pourri. Alors, il y a des moments quand on s'arrête chez un pêcheur, comme vous l'avez fait là dans l'histoire que vous racontiez, ça peut sentir plus que les œufs pourris, ça peut sentir l'ammoniaque. Voilà, l'Islande, c'est tout ça à chaque fois. Et puis, c'est une sensation aussi visuelle en hiver de voir le grand spectacle des vents solaires qui viennent se heurter sur l'atmosphère et qui vont donner les aurores boréales.
Les aurores boréales, ça, c'est magnifique. Ça peut être vert, ça peut être rose. C'est comme des draperies dans le ciel, c'est incroyable.
Ah, c'est un spectacle qui, j'ai l'habitude de dire que c'est un spectacle qui scotche. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on peut se préparer à ça, mais quand on est face à ce phénomène, c'est un phénomène qui est un phénomène évanescent, totalement dynamique. Et pour moi qui suis photographe, j'ai une grande frustration parce que je fige ça dans une image alors que c'est quelque chose qui peut durer quelques secondes comme ça peut durer des heures. Ça peut varier de forme, ça peut être dédrapé, ça peut être des espèces de flashs dans le ciel, ça peut changer de couleur. Donc on est vraiment à l'essence même de ce qu'est l'Islande.
Quand on dit dédrapé, ça peut aller d'un bout à l'autre du champ de vision, hein, sur 180 degrés. C'est absolument gigantesque dans le ciel. C'est un spectacle féerique, effectivement, qui laisse sans voix et qui, en plus, est d'autant plus captivant qu'on ne sait pas quand ça va se produire. Donc ça, c'est comme un cadeau qui arrive.
Exactement, et on sait absolument pas l'échelle que ça peut prendre. Ça peut débuter de manière extrêmement ténue, et puis d'un seul coup ça explose, et vous savez pas, ça vous remet à votre échelle d'être humain, c'est-à-dire une toute petite poussière posée sur un petit bout de caillou qui s'appelle l'Islande, là, à regarder le vent solaire qui a mis entre deux jours et trois jours à arriver. Dans la haute atmosphère de notre planète et à exciter ces atomes qui vont émettre de la lumière et qui vont donner ce phénomène.
Et l'Islande, c'est des paysages très contrastés. Il y a des glaciers qui sont gigantesques. Et il faut savoir, pour la petite info, que sous les glaciers, il y a des volcans. Et imaginez ce qui se produit quand un volcan se produit, quand il y a une éruption sous un glacier. Je ne sais pas si vous imaginez la catastrophe naturelle que ça peut représenter. C'est des monstres, des monstres de fumée, des monstres de glace qui partent dans tous les sens. Ça fait fondre la glace à toute vitesse, ça déclenche des inondations. Donc l'Islande, c'est un spectacle en mouvement en plus.
C'est une terre en mouvement. Vous avez encore en mémoire les images de l'éruption de l'Eyjafjallajökull en 2010 avec ces panaches de cendres. En fait, c'est le magma qui rencontre la glace. Et donc, l'eau va passer directement de l'état solide à l'état liquide. Donc, on passe de 1 litre de glace à plus de 1000 litres de vapeur. Ça va fractionner le magma et ça va monter sous forme de colonnes absolument gigantesques en très haute altitude. Et puis, comme vous le disiez, au sol, le glacier va se mettre à fondre et ça va donner des crues glaciaires. En Islande, ça s'appelle Jökulhlaup. Et ça va nourrir des grands paysages qui sont les paysages de la côte sud de l'Islande, qui sont uniquement des déserts de sable noir. Et ces sables noirs sont directement issus des volcans et de ce type d'activité volcanique.
Quel spectacle! Bon, on vous retrouve dans un tout petit instant, Arnaud Guérin, pour continuer à explorer l'Islande. A tout de suite sur Europe 1.
Et si on partait tous les jours entre 16h et 18h, nous sommes dans le pays des émotions fortes et des paysages incroyables, vous l'avez compris, sur la plus grande île volcanique du monde, en Islande. Une île où parfois la croûte terrestre peut être très très fine. C'est un truc qu'on entend rarement ça, mais sous nos pieds, en Islande, la croûte est fine. Et le magma n'est jamais très loin. C'est comme une grosse cocotte minute qui est à très très près, que l'on sent vibrer, que l'on voit fumer. Et il y a un truc très spectaculaire en Islande, ce sont les bains publics en plein air. Alors vous allez me dire, des bains en plein air en Islande, qui n'est pas un pays réputé très chaud, c'est pour les Islandais, c'est pour les spécialistes, ou ceux qui ont beaucoup de poils, enfin je sais pas, il y a un truc.
Qui résistent.
Ceux qui résistent. Eh ben non, c'est absolument formidable. Car en Islande, vous l'avez compris, c'est volcanique, en profondeur, les roches peuvent être très très chaudes. Et donc, l'eau qui passe sur ces roches, elle remonte très très chaude. Et donc, en Islande, il y a de l'eau chaude gratuite en quantité. Et c'est l'idéal pour faire des bains chauds en plein air. Et il y a donc une vieille tradition islandaise géniale de bains chauds, très très chauds en extérieur. En fait, là-bas, en Islande, on va au bain comme au bistrot. Pour papoter, et c'est pas rare de voir des hommes d'affaires qui se donnent rendez-vous dans les bains chauds après le boulot. Alors j'y suis allé, c'est assez sympa. Vous passez au vestiaire, vous prenez un peignoir. En général, vous passez aussi devant le bar choper une boisson. Bon, souvent c'est de la bière. Et vous sortez avec votre verre à la main. Bon, là c'est le passage délicat parce que vous êtes presque nu dehors et il fait froid. Alors, il ne faut pas montrer que vous avez une faiblesse, hein. Vous restez digne avec votre verre. Et vous marchez assez vite vers la bonne eau chaude qui est à l'extérieur. Et là, alors qu'il fait si froid dehors, vous plongez vers vos amis dans un immense bain chaud qui fume en pleine nature, au milieu de paysages extraordinaires. Et c'est tout juste délicieux.
C'est profond ?
Pas tellement, vous avez de l'eau jusqu'aux épaules à peu près, vous êtes bien.
Ah oui.
Votre corps est dans une eau à 38 degrés,
ouais.
Donc vous avez le corps qui se détend.
La bière est à 12 degrés.
La tête est au frais, ça permet de rester en forme pour une conversation. Et puis vous avez vos amis tout autour, franchement, c'est très 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 bien et on y reste très longtemps. Alors l'eau qui sort de la terre, elle arrive environ à 100 degrés hein, quand elle sort du sol. Ici, le problème en Islande, ce n'est pas de chauffer l'eau, c'est de la refroidir. C'est ça la préoccupation. Et puis dans ces bains, tout le monde se mélange, c'est vraiment sympa, on y vient en groupe. Il y a même des chorales qui viennent parfois dans ces bains et qui se mettent à chanter tous ensemble dans l'eau avec un verre à la main. C'est absolument formidable.
Et si on partait sur Europe 1 ? 2 heures d'évasion avec Philippe Googler.
Arnaud Guérin, vous êtes géologue, photographe, auteur et grand amoureux de l'Islande. Vous avez pris ces bains délicieux, j'imagine.
Ah ça fait vraiment partie de l'entrée en matière quand on arrive en Islande.
Ouais.
Juste à côté de l'aéroport, il y a un endroit qui s'appelle le Blue Lagoon, là où vous pouvez aller... vous baignez directement, mais je vous conseille, ça c'est un endroit très touristique, je vous conseille plutôt d'aller dans les piscines de chaque quartier de Reykjavik ou de vous arrêter dans les villages quand vous voyagez en Islande. Il y a des moments où vous pouvez même vous arrêter dans la nature, il y a des piscines qui existent au milieu de nulle part.
Mmh.
Vous mettez juste le doigt dans l'eau pour savoir si c'est suffisamment froid. Comme vous le disiez, le problème, c'est pas de savoir si c'est plutôt de refroidir l'eau.
Mmh.
Et là, d'un seul coup, ça devient délicieux et ça devient d'autant plus délicieux quand vous le faites en hiver.
Mmh.
Parce qu'en hiver, il fait noir. L'Islande, c'est vraiment un pays à deux saisons avec un été extrêmement fort, extrêmement court, et puis un hiver très long avec la présence de la nuit. Et là, quand vous partez avec des amis islandais, vous êtes dans la neige. Vous enlevez rapidement vos vêtements, vous plongez dans cette eau chaude, et puis d'un seul coup, eh bien, vous pouvez avoir la chance de voir les aurores boréales.
Ah
et
oui.
Ça, c'est vraiment un spectacle qui est unique au monde, puisque vous sentez l'activité tellurique de la planète qui chauffe l'eau dans laquelle vous êtes, et vous regardez un des grands spectacles astronomiques, c'est-à-dire voilà, la conséquence du vent solaire sur notre atmosphère. C'est totalement enchanteur.
C'est magique. Olivier ?
Est-ce que les Islandais utilisent cette géothermie ? Parce que c'est, comme vous le disiez, c'est de l'énergie gratuite à profusion. Est-ce qu'ils l'utilisent comme il se doit, justement ? On n'a pas besoin de chauffe-eau à la maison.
Bien sûr, si l'électricité pouvait s'exporter, l'Islande serait un émirat énergétique. Puisqu'on utilise cette géothermie partout. Quand vous arrivez à côté de l'aéroport, il y a des centrales géothermiques. À côté de Reykjavik, il y a la même chose. Et donc, on a un problème en Islande, c'est qu'on a trop d'énergie. On est obligé de faire venir de l'industrie lourde, en particulier des fonderies d'aluminium. C'est pas très écologique pour utiliser cette énergie. Le jour où on saura exporter l'électricité, l'Islande changera complètement de statut grâce à cette activité tellurique de la planète.
Ah oui, c'est dingue.
Très écologique en plus.
Ouais. Ah ben,
très écologique.
Totalement
ouais.
Écologique. Alors, il y a quelque chose d'autre en Irlande, en Islande, à une lettre près, pardon.
On n'est pas si loin. Hein.
Quelque chose moi, qui me fascine en Islande, c'est que c'est un pays voilà, très développé, ou voilà, plutôt de religion protestante. Et puis, les gens là-bas croient aux lutins et aux elfes. Alors quand on dit ça, on dit c'est pas possible. Mais c'est très courant. J'ai rencontré quelqu'un qui construisait sa maison en Islande et qui disait ah non mais là dans ce coin du terrain je vais rien construire parce que il y a des elfes, je vais pas les déranger. Et il me disait ça très sérieusement. Et c'est un truc que j'ai du mal à m'expliquer ça. Vous l'avez rencontré ?
En fait, en Islande, il y a un vieux fond de paganisme. Les Islandais sont des gens très, très particuliers, très pragmatiques. En juin de l'an 1000, ils ont voté dans la vallée du Parlement, qui est un grand effondrement tectonique en plein milieu du pays, de devenir chrétiens. Mais ils n'ont jamais oublié leurs anciens dieux. Ils ont jeté les idoles dans une chute d'eau qui est dans le nord du pays, qui s'appelle Godafoss, la chute des dieux. Mais ils ont gardé toujours ce vieux fond qui leur permet de pouvoir vivre en confrontation permanente avec la nature, que ce soit avec les volcans, l'activité volcanique, vous l'avez dit, une éruption en moyenne tous les 5 ans, ça change votre vie à chaque fois et ça peut remettre en question votre vie, et puis au quotidien, le climat. Donc, et en Islande, on a vraiment un monde qui est un monde parallèle, un monde invisible qui est peuplé d'elfes, de trolls, de fantômes. Et tout ça, c'est extrêmement sérieux. On peut en rigoler comme ça, mais pour les Islandais, c'est extrêmement sérieux. Quand on construit une route, on fait passer des gens qui savent et on dévie la route s'il y a des elfes qui vivent là. Les elfes sont plutôt des personnages qui sont des personnages bénéfiques. Et puis, il y a les trolls dans le paysage. Vous avez des rochers qui prennent des formes un petit peu fantasmagoriques. On dit que ce sont des trolls qui ont été pétrifiés par la lumière, puisque les trolls sont des organismes de la nuit, et s'ils sont touchés par un rayon de lumière, ils sont pétrifiés. Donc tout ça, ça fait partie de cet imaginaire islandais, qui est un imaginaire extrêmement riche.
Mais comment est-ce qu'on sait s'il y a des elfes à un endroit ou pas ? Comment on les détecte ?
Alors en fait, il y a des gens qui savent, comme vous pourriez aller voir un prêtre chez vous, ouais. Il y a des gens qui sont en connexion avec le monde invisible et qui vont vous dire, eh bien, écoutez, à cet endroit-là, il faut plutôt le laisser tranquille.
Parce que si on les fâche, qu'est-ce qui se passe si on fâche un elfe ?
Alors en fait, les elfes ont le pouvoir de pouvoir rentrer dans votre vie et par exemple dans un village en Islande tout le monde se connaît, il n'y a pas d'anonymat. Et si dans un village en Islande on voit quelqu'un qui est plutôt très beau avec des manières et qui manie très bien la langue, on s'en méfie toujours parce que ça peut être un elfe qui se balade et les elfes, même s'ils sont plutôt bénéfiques, ils peuvent se fâcher et ils peuvent remettre en question votre vie sur le territoire. Donc, c'est toujours quelque chose à géométrie variable et on prend toujours en considération la respiration de la nature, la respiration de la terre et en fait ces créatures ne sont que l'expression de ça. Ouais.
Merci beaucoup, vous restez avec nous Arnaud Guérin pour continuer à nous faire vivre l'Islande, vous le faites merveilleusement. On se retrouve dans quelques instants, juste après avoir écouté Ava Max, Kings and Queens.
Europe 1, Philippe Googler.
Et si on partait sur Europe 1, nous sommes en Islande jusqu'à 18h. Et Nathalie, vous, à Marseille, ce qui vous intéresse, c'est les pétomanes. Et en Islande, ce sont les morues.
Oui, alors les morues islandaises, hein, ce n'est pas les mêmes que chez nous. Elles n'ont pas de mini-jupe, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, alors trêve de plaisanterie. Oui, c'est fait. On parle souvent du rapport qu'entretiennent les Portugais avec la morue, mais oui. Celui des Islandais est pas mal non plus, vous allez voir. Parce que la morue, aux yeux des Islandais, ce n'est pas seulement de la nourriture, hein, c'est une question économique. C'est l'une des industries de pêche les plus efficaces et les plus rentables au monde, avec des exportations qui frôlent les 2 milliards de dollars par an. Hein. Donc l'industrie de la pêche, c'est de très loin la principale pourvoyeuse de richesses du pays. Et d'ailleurs, sur les marchés internationaux, il faut savoir qu'une morue sur 3, elle est islandaise. Et si l'Islande est devenue l'un des derniers sanctuaires, si je puis dire, de la morue, ce n'est pas par hasard. Elle s'est battue pour en arriver là. Et c'est une lutte qui commence dès que l'Islande devient indépendante du Danemark en 1944.
La morue, c'est une pêche, enfin, c'est ancestral en Islande.
Ah oui, absolument. Parce que dès le Xe siècle, eh bien, l'activité commerciale autour de la morue, c'était une des principales en Europe, notamment à cause du christianisme. Parce que le christianisme interdisait la consommation d'animaux terrestres pendant environ la moitié de l'année. Et puis la morue, une fois salée ou séchée, bah, ça se conserve plus longtemps et puis ça a surtout meilleur goût que le hareng et la chair de baleine, hein, par exemple. Et donc l'intérêt pour la morue n'a pas diminué et des luttes pour cette ressource se sont produites plusieurs fois dans l'histoire. Donc les eaux autour de l'Islande, elles sont parmi les plus poissonneuses. Et dès le XIIIe siècle, les marins anglais venaient y pêcher. Et les bretons aussi. Mais enfin, ça, c'est un petit peu plus tard. Vous savez, vous vous rappelez sans doute du roman célèbre de Pierre Loti, hein, Les pêcheurs d'Islande, paru en 1886, qui parle de ces marins de Paimpol. Et d'ailleurs, on surnommait l'équipage de ces bateaux bretons les Islandais du mousse au capitaine. C'était un métier très éprouvant physiquement. Il y avait le froid, il y avait très peu de sommeil, il y avait des troubles de la vision parce que il y a une lumière incessante du soleil islandais pendant l'été, un climat glacial en hiver, une malnutrition à bord et puis des cadences infernales avec des journées de 15 à 16 heures de pêche.
Ouais, c'était une pêche incroyablement difficile.
Oui, et puis côté islandais aussi, c'est un petit peu la même chose. Hein, parce que les Islandais, avant leur indépendance, ils étaient très pauvres. Hein, donc encore une fois, la seule richesse, c'était la pêche. Les hommes partaient en mer, les femmes les attendaient. Hein, c'est d'ailleurs pour ça que c'est une société fortement matriarcale. Et les Islandais, eh ben, ils sont prêts à tout depuis toujours, on peut le dire, pour défendre leurs possessions et notamment leurs eaux territoriales. Parce que contrairement à beaucoup d'autres peuples, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils ont une rare maîtrise de leurs ressources halieutiques, c'est-à-dire les ressources animales des milieux aquatiques marins ou d'eau douce. Ils ne connaissent pas la surpêche. Donc, ils n'ont pas hésité à défendre le bout de gras ou plutôt le dos de cabillaud lors de ce qu'on a appelé la guerre, ou plutôt les guerres de la morue.
Et qu'est-ce que c'est la guerre de la morue?
Alors en anglais, on dit code war, parce que code, ça signifie cabillaud, hein, morue. War, c'est la guerre, donc c'est un jeu de mots avec cold war, la guerre froide. Et ce terme, c'est une invention de journaliste. Et en réalité, c'est une guerre, on peut le dire, des eaux territoriales. Il y a eu trois grands conflits entre 1958 et 1975, surtout avec les Anglais qui s'aventuraient trop près des eaux territoriales islandaises. Donc en 1972, bah les Islandais ils ont décidé d'étendre leur zone de pêche exclusive. Et puis, bah, y a eu des accords, mais il y a eu surtout beaucoup de conflits. Par exemple, on sait que les gardes-côtes islandais, ils n'ont pas hésité à cisailler les filets des chalutiers avec un outil nommé une tondeuse qu'on a conservé ensuite au musée national.
Merci beaucoup à Nathalie. Arnaud Guérin, vous êtes toujours avec nous, toujours passionné de l'Islande depuis des années. Ça fait 65 fois que vous nous avez dit que ça fait 65 fois que vous faisiez l'aller-retour.
Pour y aller habiter là-bas.
Hein, ouais. Pourquoi vous installez pas là-bas directement?
Ah, je crois que je suis né dans un pays qui est un pays à 4 saisons. Et vivre dans un pays à 2 saisons, ça serait extrêmement compliqué. En tout cas, pour le cerveau, c'est extrêmement compliqué parce qu'en plein été, eh bien, vous réveillez à 1h du matin, il fait jour et vous avez une pêche extraordinaire. Ouais. Et en plein hiver, ben, vous avez la nuit quasiment permanente. Et ça, psychologiquement, c'est extrêmement dur. Donc, ouais. Je crois qu'il faut vraiment être islandais pour pouvoir vivre là-bas comme ça.
Ouais. Nathalie nous parlait de la pêche il y a un instant. Les pêcheurs islandais ont une capacité d'affronter des mers dantesques.
Ah oui, je me rappelle, je suis allé il y a une dizaine d'années faire un reportage dans les îles Vestmann au sud-ouest de l'Islande. On pêchait pas la morue, mais le caplan en plein hiver. On a appareillé alors qu'il y avait 80 nœuds de vent.
80 nœuds de vent, chez nous, ça fait combien en kilomètres heure?
Ça va faire 120.
Ça fait 150 kilomètres heure de vent, c'est-à-dire que chez nous, le préfet caserne tout le monde chez soi. Et simplement, pour les Islandais, c'était le départ en pêche. Il y avait entre 15 et 17 mètres de creux.
17 et c'était
le départ. Et on est parti en mer. Et ensuite, on s'est mis à la cape pour attendre que la mer s'aplanisse. Et ensuite, on a commencé à pêcher. Et c'est une véritable industrie. Il faut voir que sur ces bateaux, qu'on appelle des senneurs, le filet entoure le banc de poissons. Et à chaque trait de senne, on remontait 500 tonnes de poissons. C'est totalement inimaginable. On pompe le poisson dans le filet. Et donc, on imagine les moyens humains et l'espèce de paradoxe qu'il y a à pomper autant de poissons pour, là, c'était pour faire de la farine, pour alimenter les poissons d'élevage. Donc les Islandais peuvent être totalement vertueux en termes d'environnement, comme ils peuvent aussi avoir des techniques qui sont des techniques de prédation qui sont extrêmement fortes. Mmh. Heureusement, il y a un système de quotas qui permet de gérer les stocks de manière assez bonne en Islande.
Merci beaucoup Arnaud Guérin. On parlerait de l'Islande pendant des heures avec vous.
Moi j'ai mal de mer maintenant.
Ouais. Merci à vous.
Il faut un petit remontant.
Oui.
Merci beaucoup. Et puis je rappelle que vous êtes à l'origine d'un livre qui s'appelle, excusez-moi, j'ai perdu mon papier, je suis désolé.
Les deux saisons
de l'Islande.
Aux éditions Glénat.
Voilà, parfait. Merci beaucoup. Excusez-moi, parce que je vous ai tellement écouté, j'ai perdu mes papiers. Je vous souhaite encore de beaux voyages en Islande, parce que c'est un pays absolument merveilleux. Dans un tout petit instant, on se retrouve avec Olivier Pouls pour parler de la gastronomie islandaise. Et ça doit être spectaculaire.
Europe 1. Et si on partait? Philippe Googler.
Nous sommes en Islande.
Ouais, ça s'entend bien. Hein.
Ouais. Ouais, c'est pas du Björk.
J'aime beaucoup ces sonorités islandaises.
On dirait du Björk, non?
Non, c'est pas du Björk. On peut avoir le nom de... Alors, c'est vous êtes dur de me demander le nom parce que c'est Lifandi Vantnio. Voilà.
À vos souhaits.
Vous êtes satisfait?
Je note.
Oh, c'est pas plus c'est compliqué doux que le volcan.
Mais il y a un côté très doux qui contraste avec la force de la nature.
Ouais. Et d'ailleurs, il y a ce double caractère toujours en Islande. Hein. On dit souvent que ce sont à la fois des Celtes et des Scandinaves. Il y a un mélange feu et glace comme ça, très, très, très souvent. Mon cher Olivier.
Vous allez voir qu'en matière de gastronomie, c'est aussi feu et glace.
C'est feu et glace.
Il y en a pour tous les goûts.
Qu'est-ce qu'on mange? Moi, j'ai goûté le requin du Groenland. C'est pas bon.
Non, bah, vous nous en avez parlé. C'est vrai que c'est peut-être pas ce à quoi je pense pour mon repas de ce soir.
Il faut être vraiment islandais pour aimer.
Voilà. Mais bon, alors l'avantage, on en a parlé là, avec la pêche, c'est qu'il y a en matière de poisson en Islande des ressources pratiquement illimitées. Hein. Ouais. C'est un pays de pêche, de tradition de pêche. Alors, on mange beaucoup de poissons, qu'ils soient frais ou séchés. Ouais. On trouve l'incontournable morue, on en a parlé, le saumon, du requin, mais pas uniquement votre fameux requin un peu spécial. On mange des requins plus classiques, qu'on fait d'ailleurs souvent fermenter. Ouais. On trouve des langoustines, me disait Nathalie tout à l'heure.
Des Saint-Jacques.
Des Saint-Jacques. De l'omble chevalier, qui est un très très joli poisson, très fin.
Mais très noble.
Mais, qui lui est un poisson d'eau douce, hein, qui n'est pas un poisson de mer. Et puis, on trouve beaucoup de produits laitiers également. Et puis, je vous parlerai de l'agneau dans un instant. Côté produits laitiers, celui qu'il faut manger, c'est le skyr, qui est un produit...
Ah oui, c'est une sorte de yaourt,
c'est ça. Voilà, c'est entre le yaourt et le fromage frais. Ouais. C'est très crémeux, c'est très doux. Ça se mange avec des fruits. Franchement, ça, c'est délicieux. Le pain islandais est un pain aussi très particulier, qui est un pain de seigle extrêmement foncé et qui est cuit en cocotte. C'est un pain qui n'a pas de croûte.
C'est vrai
qu'il est cuit. Mais ça tient encore. Hein. C'est un pain qui est extrêmement dense, peu levé, et qui accompagne un certain nombre de leurs produits. Et on parlait de la géothermie tout à l'heure, et notamment, on cuit ce pain par la géothermie, en creusant des trous et en mettant les cocottes dans les trous, dans des endroits très chauds, et on vient le récupérer quelques heures après, il est cuit. On utilise aussi le sol pour la cuisson d'un certain nombre de produits.
Et puis, du côté de la viande, il y a beaucoup d'agneaux, de moutons.
Voilà, exactement. C'est le pays de l'agneau. Mais alors là, attention, l'agneau, on le mange dans sa totalité. C'est-à-dire qu'on ne va en oublier aucune partie.
Ah bon ?
Et quand je dis aucune partie, c'est absolument aucune partie.
C'est à quoi vous pensez ?
Une fois que vous avez mangé, comme moi, les côtes, le filet, les gigots, moi, je vous laisserai la tête. Hein, on mange des demi-têtes d'agneau. Et alors là, croyez-moi, tout y reste. Hein, on la fait bouillir et puis on vous la sert comme ça. Ah oui, il y a tout. Hein,
les yeux,
la langue, tout.
On mange les yeux ?
On mange les yeux, oui, certains. Enfin, en tout cas, certains aiment ça. Ça se mange. Et puis surtout, les testicules.
Ah.
Mais très recherchés là-bas.
Très recherchés.
Testicules, ouais.
Pourquoi alors, c'est bon ?
J'avoue que je n'ai pas goûté. mais alors, la recette, honnêtement, je l'ai lue. Je ne sais pas si je peux la donner ici à cette heure de grande écoute, parce que les testicules sont cuits. Ensuite, ils sont mis dans une espèce de lait fermenté. Enfin, ça m'a l'air absolument abominable. Et je pense qu'il faut être vraiment descendant de viking ou islandais pour être capable de manger ça. Et
alors, ça peut être beau parce que vous savez, j'ai une grande règle, c'est pas parce que c'est moche que c'est mauvais.
Non, c'est très culturel en réalité.
Ouais, ouais.
Pourquoi on ne
mangerait
pas
pour
les.
Tout.
On mange des grenouilles.
On mange bien des grenouilles, des escargots. Ouais. Les Espagnols mangent des testicules de taureau, il n'y a aucun problème à manger ça. Et d'ailleurs, dans le repas islandais typique et qui nous paraît un peu spectaculaire quand même, c'est ce qu'ils appellent le boramatur. C'est un repas qui est servi durant les deux premiers mois de l'année. C'est une espèce de repas de l'horreur pour nous Français avec notre culture,
ouais,
de buffet viking, parce que vous allez trouver des ailerons de requin, du gras de baleine, donc des testicules et de la tête de mouton, de la nageoire de phoque, des saucisses de foie, voilà, tout ça est accompagné du fameux pain au seigle. Pour ma part, je crois que je mangerai que le pain. Je laisserai le reste.
Ouais.
Voilà, ils mangent, c'est vrai, un certain nombre. Beaucoup. Là, on le voit aussi, hein, beaucoup de produits ou de la mer ou animaliers. Mmh. Il y a très peu de cultures, il y a peu de fruits, il y a peu de légumes dans cette région.
Ça pousse pas très bien,
c'est, la gastronomie est évidemment intimement liée aux conditions.
Et puis au froid, il faut avoir faut que ça tienne au corps.
Absolument.
Et qu'est-ce qu'on boit
pour arroser
pour
faire passer le goût. Écoutez, il y a le brenivin ou l'aquavit, hein, c'est une espèce c'est de l'alcool de pomme de terre qui est aromatisé au carvi ou à différentes herbes ou épices qu'on peut trouver là-bas. Il faut savoir que en réalité, il y a eu une prohibition en Islande. Au début du XXe siècle, entre 1915 et 1921, on a interdit la production et la vente d'alcool sur l'île. Il y avait des lois qui étaient extrêmement strictes, donc il n'y a pas une vraie culture, une énorme culture de consommation de boissons alcoolisées là-bas. Et en fait, la prohibition était abolie sur pression commerciale des Espagnols, parce que les Espagnols étaient gros acheteurs de poissons islandais, notamment de morue, et eux leur vendaient du vin. Et comme, à un moment, les Islandais ont dit, nous, prohibition oblige, on n'achète plus le vin aux Espagnols, ils ont dit, très bien, nous on n'achète plus votre poisson. Et donc cette guerre commerciale, ce bras de fer commercial, a abouti à la levée en 1921 des lois interdisant la vente et la production d'alcool.
Pragmatique. Donc,
pragmatique. Et donc on va dire que l'une des boissons assez faciles à trouver pour aller justement vous baigner dans vos bains délicieux, c'est la bière. On y boit de très bonnes bières, assez peu alcoolisées d'ailleurs, et qui sont rafraîchissantes dans ce bain à 38 degrés.
Ouais. Merci beaucoup Olivier. Dans un tout petit instant, Jean-Bernard Carrier pour avoir tous les bons plans afin de visiter ce pays. Il faut bien s'organiser pour aller en Islande. Vous verrez, il y a quelques règles à respecter. À tout de suite, on va écouter Björk, mon cher Jean-Bernard.
La voilà.
Votre ami Björk, Bachelorette.
Europe 1, 16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Tiens, je serais presque cru en Grèce pendant
quelques instants.
<cru. rire> mais c'est une petite remontée vers le nord là sur la fin. Nous sommes en Islande jusqu'à 18h sur Europe 1 et avec Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet maintenant pour tous les bons plans. Alors, si on ne veut pas rater les sites les plus spectaculaires, vous dirigeriez vers quoi d'abord ?
Toute l'Islande est spectaculaire, c'est pour ça que ce n'est pas très facile de trancher. Moi, il y en a vraiment un que je conseille, il ne faut pas le louper, c'est dans le sud-est du pays, c'est le glacier du Vatnajökull.
Vous le faites bien.
C'est pas mal. Ce glacier, en fait, c'est la plus grande calotte glaciaire du monde en dehors des pôles. Rien que ça, déjà, ça le situe. Donc, c'est déjà un paysage très spectaculaire dans le sud-est du pays. Et de cette calotte glaciaire, elle est en fait la mère de d'innombrables glaciers qui prennent naissance dans cette masse gelée qui recouvre justement des volcans actifs. Donc, vous voyez, c'est un petit peu vraiment l'alliance de la terre, de la glace et du feu. C'est là que ça se passe. Alors, le must pour découvrir ce paysage extrêmement spectaculaire, c'est de prendre de la hauteur et justement, c'est de faire un survol touristique avec un petit avion. Ça se propose très régulièrement sur place.
Pas un kayak alors ?
Alors, pas un kayak. Là, c'est vu d'en haut, mon cher Olivier, et non pas vu de la mer. Alors, vu d'en haut, le spectacle est absolument magique. On voit ces fameuses rivières glacées au milieu de ces cendres noires. Donc, vous avez ces rivières glacées, elles forment une espèce de delta, on dirait des filaments ou des cheveux blancs au milieu de cette cendre noire. Ouais, ça se voit que d'en haut, donc avec un survol touristique.
Ou en marchant petit à petit.
Il faut trouver des points de vue, c'est pas facile. Voilà, donc ça, c'est vraiment le must. Alors, en hiver, dans quelques mois, donc, il y a d'autres choses
à faire.
Si
je peux me permettre, Jean-Bernard, je peux conseiller aussi un truc. Alors, ça, on pense que ça coûte très cher. Alors, c'est assez cher, mais si on s'y met à plusieurs, ça peut être sympa aussi. Vous pouvez faire un survol en hélico. Des volcans actifs et le pilote en général. Alors on peut faire ça, je crois que quand on s'y met à plusieurs, ça revient à peu près à 300 euros. Mais alors ça ne dure pas très longtemps, mais c'est le souvenir d'une vie.
C'est le souvenir d'une vie.
Et je vous jure que ça vaut l'investissement, parce que le pilote vous fait comme dans Star Wars, des plongées dans des canyons de glace, au-dessus du cratère, dans le cratère et tout. C'est incroyable. Donc si vous pouvez vous offrir ça, peut-être en dépensant moins dans autre chose, mais en tout cas, c'est vraiment très chouette.
Et on ne verra jamais ça ailleurs, je confirme. Alors, en hiver, il y a une autre expérience assez incroyable dans ce fameux glacier du Vatnajökull, c'est l'exploration des grottes de glace. Parce que ce qui se passe en été, c'est l'eau qui est dans ces glaciers, elle fond. Et en fondant, elle creuse des cavités, des cavernes, des grands tunnels à l'intérieur de ce glacier, de ce gigantesque glacier. Ce qui fait qu'en hiver, tout ça, ça refroidit et vous avez d'immenses boyaux à l'intérieur de ce glacier. Et vous pouvez rentrer dans le glacier. Vous l'avez vu d'en haut, maintenant on va le voir dedans, les entrailles du glacier. Non, parce que c'est complètement solidifié, c'est pétrifié. Et ce qui est incroyable, c'est que la glace est tellement compactée que tout le spectre lumineux est absorbé, sauf le bleu. Ce qui fait que vous êtes dans un tunnel de bleu, comme Europe 1, là, ce fameux beau bleu que vous voyez.
Vous voyez, on est dans le glacier.
C'est un bleu puissant, un bleu très lumineux, avec quelques petites déclinaisons. Et c'est vraiment une ambiance surréaliste. Et en plus, les parois de ces boyaux sont sculptées. C'est la nature qui a sculpté elle-même. Il y a toutes les formes, toutes les textures. Ça, c'est vraiment une expérience absolument sublime que je recommande à faire. Et là, c'est pas très compliqué à faire. Vous allez avec un guide qui vous emmène là. Il y a plein de prestataires qui le proposent. Ah, c'est une expérience inoubliable.
Ah, ça paraît incroyable. On peut faire un peu de motoneige ou des engins un peu bizarres sur...
Ça, c'est aussi le top. Donc, on retourne maintenant sur le glacier à nouveau, parce qu'il y a de la neige en hiver sur le glacier. Et alors, évidemment, Olivier, je vous vois à l'air plein de convoitise au volant d'une motoneige. Au guidon d'une motoneige. À plus de 60 km/h en train de découvrir ce Vatnajökull. On y va à plein pot, sensation de conduite, effectivement, comme la moto, mais c'est beaucoup plus stable. Et surtout, on s'arrête régulièrement pour profiter des panoramas et faire des photos. Parce que le glacier Vatnajökull, en hiver, vous avez un mélange de blanc et de noir, et la mer au fond. Enfin, c'est le fameux paysage incroyable.
Ouais. Voilà. Côté mer ?
Alors, côté mer, il faut aller dans le nord du pays. On n'en a pas beaucoup parlé de ce nord du pays. Du côté de Húsavík, c'est la capitale de l'observation des baleines. Alors ça, c'est en ce moment, c'est pas en hiver. C'est jusqu'à fin août, donc vous dépêchez-vous pour ceux qui sont intéressés, ou pour l'année prochaine. C'est la capitale de l'observation des baleines à bosse, des baleines bleues et même des orques. On peut trouver des orques. Pourquoi elles viennent là ? Elles viennent tout simplement se nourrir dans ces fjords du nord du pays, se nourrir et se reproduire jusqu'à fin août. Et on est sûr de les voir. C'est-à-dire, c'est 100% d'observation garantie. Donc vous ne serez pas déplacé pour rien. Ouais. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus, il y a le paysage qui est magnifique. L'eau, elle est lisse, elle est transparente. Et vous vous déplacez à bord de vieux gréements. Il y a des goélettes, des voiliers. Ce n'est pas des zodiacs, il n'y a pas que ça. Vous avez aussi le plaisir de la navigation dans ces fjords. Ouais. Et puis, à un moment donné, imaginez, vous avez l'eau lisse et sombre. Et soudain, à quelques mètres de vous, il y a une baleine de 30 tonnes qui surgit des flots et qui retombe avec un énorme splash à côté du bateau. Voilà, ça fait aussi partie de l'expérience islandaise en été.
Ça fait envie. Et alors, on a parlé tout à l'heure des bains qu'on peut faire en plein air. Et ça, c'est vraiment à vivre absolument, pour
ça
partager un moment sincère
grande
avec
émotion,
les Islandais. Vous avez des adresses ?
Bah, y a le fameux Lagon Bleu qui se trouve tout à fait près de l'aéroport, donc c'est pas très loin de la capitale. Alors c'est évidemment le site le plus touristique du pays, c'est la tour Eiffel islandaise si vous voulez, mais ça vaut vraiment le déplacement parce que imaginez un champ de lave toute noire, vraiment de la lave toute noire, avec un bassin d'eau turquoise au milieu. Franchement, c'est quand même assez incroyable. Cette eau, elle a une consistance un petit peu laiteuse et avec une température de 38 degrés, vous l'avez dit, et il y a des tourbillons de vapeur. Voilà, parce que c'est le contraste, c'est la géothermie, et vous êtes là-dedans. Alors, l'eau a une texture aussi parce qu'il y a de la silice blanche, donc ça a des vertus adoucissantes, exfoliantes, c'est plein de sels minéraux. On se croirait dans un autre monde et en même temps, on se soigne, on se dépayse, on se détend.
Et tout ça au milieu de champs de lave à l'infini.
C'est incroyable, c'est en pleine nature.
Absolument
évidemment.
Incroyable. Merci beaucoup Jean-Bernard.
Je vais me faire couler un bain ce soir.
Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'en Islande. Demain, nous repartons, on ne s'arrête jamais. Et nous irons au pays de la mer Noire, de Dracula et de Bucarest, sa capitale. Je vous emmènerai en Roumanie, il y a des trésors cachés là-bas, qu'on sous-estime. Et puis en première heure, direction Nantes et la côte Loire-Atlantique, avec bien sûr les châteaux des Ducs de Bretagne, les chantiers de Saint-Nazaire, le sel de Guérande et beaucoup d'autres choses encore.